corps.
Tiens.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format où nous avons pris la délicieuse habitude de poncer des filmographies intégrales. Je suis rejoint pour parler du sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui va nous occuper sur trois épisodes, par Cyril Despontin, qui est déjà venu dans un épisode qui était consacré à l'anthologie Maggie Cheung. Comment ça va, Cyril ?
Ça va très bien, merci de l'invitation, François.
Et bien, toujours avec grand plaisir. Et un nouveau venu dans la nébuleuse Discordia, Aurélien Alain, comment ça va ?
Très bien, merci François et merci pour l'invitation, je suis très content d'être là.
Et bien avec grand plaisir également, nous allons donc parler de Danny Boyle. Vous êtes les deux plus grands fans de Danny Boyle que je ouais, connaisse.
C'est voilà. Possible.
Donc il y en a sûrement d'autres, Danny Boyle oui. Lui-même peut-être.
Ils sont légion,
mais oui, oui.
Nous sommes légion.
Absolument, vous êtes nombreux. Et alors, je vais évacuer le sujet directement. Moi, j'étais ado dans les années 90, comme je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, et les deux premiers films de Danny Boyle, les deux premiers longs métrages qui sont sortis au cinéma, ça a été une grosse tarte. Ça a été une histoire d'amour fusionnelle intégrale. Et à partir du troisième film, D'une vie moins ordinaire, c'est quelque chose... C'est brisé, peut-être. Alors après, j'ai revu le film pour l'occasion et on va en reparler. J'ai revu un peu mon jugement, je dis bien un peu. Mais il y a quelques données irréconciliables dans la suite de sa filmo qui me font m'interroger, vraiment. Et c'est un sujet de débat récurrent entre nous, Cyril. Ça va le devenir entre nous, Aurélien. Et pour vous résumer un peu la situation de façon un peu goguenarde, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une série de télé-réalité, je crois que ça s'appelait 60 jours, 60 nuits, qui était passée sur Canal, où on suivait en parallèle Joe Estar et Francis Lalanne.
Tout à fait.
Et en fait, ça existait, ça ?
Oui, ça existe. je ne l'ai pas inventé dans une crise fiévreuse. Et disons que la révélation de cette série, à l'époque, je dis bien à l'époque, parce que il s'est passé des choses entre-temps, mais c'était Francis Lalanne qui était devenu un objet un petit peu de ridicule, qu'il a toujours plus ou moins été. Hein. Mais là, ça a été une révélation dans le sens où il bouffait l'écran. Joe Starr, c'était un peu ingrat, parce que ça se voyait qu'il n'avait pas envie de faire cette émission, mais Francis Lalanne, c'était la fête. C'était un joker, c'était un plaisant. C'était un foufou qui embrassait les arbres. Et il y a un moment assez clé dans la série où, en fait, au bout de 2-3 épisodes, pareil, il commençait à me gaver, Francis Lalanne. Et il y a un moment où il est avec sa femme au restaurant et il force, en fait, il fait des blagues. Il fait et sa femme en a marre. Tu vois, ça se voit sur la gueule de sa femme qu'elle en a marre. Et Francis Lalanne tente le tout pour le tout. Il prend une tranche de pain qui se coince sur le nez. Enfin, il fait un trou avec la mie de pain, il se la coince sur le nez. Et sa femme est atterrée, en fait. Elle se cache la tête dans les mains. Et il y a ce plan absolument génial sur Francis Lalanne qui la regarde avec sa tranche de pain coincée sur le nez et qui lui dit « Avant, ça te faisait rire. » Et Danny Boyle, moi, c'est, à partir d'une vie moins ordinaire, c'était ça. C'était quelqu'un qui avait une tranche de pain.
C'est dur. Voilà. C'est dur. Comparer Danny Boyle à Francis Lalanne, c'est dur.
Mais ouais. Surtout, tout cette histoire, pour dire ça... Voilà. C'est laborieux, François.
Et donc, je vais avoir besoin de vous pour me faire peut-être changer d'avis. Je ne sais pas.
On sera ton bout de pain. On sera ton bout de pain, t'inquiète.
Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me raconter, vous, votre histoire avec Danny Boyle ? Cyril, d'abord. Pourquoi Danny Boyle, parmi tant d'autres réalisatrices et réalisateurs de toutes les galaxies ? Pourquoi lui ?
Bah, du coup, pas que depuis le début, tu veux dire l'entièreté, quoi.
Oui, tout à fait.
Moi, comme toi, Petit Meurtre et Trainspotting. Grosse baffe, quoi. Je crois pas que je les ai vus en salle, je les ai vus en vidéo tous les deux. Et j'ai toujours aimé ce réalisateur, même dans les moments les plus bas, et sauf pour un film, mais on en parlera pendant ces trois émissions, je défendrai Danny Boyle coûte que coûte. Son cinéma me parle, il a les goûts musicaux, les goûts de la mise en scène, du rythme. Je sais pas pourquoi, il arrive à transcender des histoires cons, genre 127 heures par exemple, on en parlera plus tard, mais ça peut faire un court-métrage, et il en fait un film dément. Bref, c'est un conteur d'histoire tel que j'en trouve peu dans le cinéma mondial. Et je le préfère, par exemple, à un Tarantino. Je vais faire grincer les dents, mais voilà.
Aurélien, Danny Boyle.
Eh ben, moi, j'étais adolescent dans les années 90, hein, comme toi. Et effectivement, je me suis pris Petit Meurtre et Trainspotting, effectivement, comme vous, en pleine tête. Je les ai vus en salle et c'est vrai que c'est un cinéma qui tout de suite m'a parlé parce que j'avais l'impression de... de voir quelque chose d'extrêmement moderne et en même temps d'extrêmement conscient de ce qui avait été, ce qui a existé avant lui, et quelque chose qui regardait vers le futur et qui parlait en même temps complètement de l'époque qu'on était en train de vivre, qui était une époque un peu bizarre, avec la chute du mur, une espèce de nouveau monde dans lequel on espérait que le monde allait changer. Et pour moi, Danny Boyle, c'était vraiment l'incarnation de ça au cinéma. C'est-à-dire que c'était la jeunesse, c'était l'énergie, la modernité. Et vraiment, je me suis pris ça en pleine tête. Et après, j'ai jamais dérogé. C'est-à-dire que je sais que certains de ces films sont moins bons que certains autres. Mais même dans ses films les plus, je dirais pas ratés, parce que pour moi, il rate jamais complètement un film, mais même dans ses films les plus faibles, on va dire, il y a toujours quelque chose qui m'émeut, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse. Même dans Millions, par exemple, qui est peut-être son film le moins aimé et peut-être son plus difficile à aimer, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment bouleversantes. Et c'est vraiment un cinéaste qui m'intéresse parce qu'il ne s'excuse jamais de ce qu'il est, il ne s'excuse jamais de ce qu'il fait, il fait les choses qu'il a envie de faire, il a un style qui ressemble qu'à lui-même. Et ça, c'est ce que j'aime le plus chez un cinéaste, c'est quelqu'un qui assume complètement ce qu'il est, qui sait ce qu'il veut raconter et comment il veut le raconter. Et moi, c'est ça qui m'émeut chez Danny Boyle, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui assume complètement ce qu'il est et qui en plus est extrêmement intelligent. Et c'est vrai que c'est un cinéma qui m'a jamais déçu complètement. Et même quand je l'ai trouvé plus faible, j'ai toujours trouvé mon compte d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est un cinéaste qui, moi, je continue à suivre avec appétit. J'ai toujours hâte de savoir ce qu'il va faire.
Question pour vous deux, étant tous les deux journalistes, est-ce que vous l'avez déjà rencontré, interviewé ?
Oui, moi j'ai eu cette chance, oui. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je l'ai rencontré notamment pour Steve Jobs et pour Yesterday, pour Pistol notamment. Peut-être une dernière fois, je ne sais plus trop. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que je trouve brillant en interview. C'est-à-dire que ça rajoute aussi à ma passion pour lui. C'est-à-dire que lui parler, c'est vraiment une aventure, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle très bien de son cinéma, qui comprend absolument toutes les questions qu'on lui pose, qui refuse absolument de répondre à aucune question. Et ça, c'est en interview, c'est vraiment un très très bon client et c'est quelqu'un qui creuse vraiment son cinéma. C'est quelqu'un, on comprend à quel point il réfléchit son cinéma. Il n'y a rien de laissé au hasard chez lui. Et moi, j'adore à chaque fois, j'adore l'interviewer. Ouais.
Bah, écoute, pour répondre à ta question, pas du tout. Je ne l'ai jamais eu. C'est pas du tout une volonté de ma part. L'occasion ne s'est jamais présentée. Mais écoute, je ne demande qu'à lui parler, finalement. Ça fait envie. Envie ce que raconte Aurélien. Et le programme qu'on s'est fixé, en fait, sur 3 épisodes, on va conclure aujourd'hui par 28 jours plus tard, gros morceau. Mais on va essayer d'aborder un petit peu tout, le champ le plus vaste possible dans le prochain épisode. Notamment, on parlera de ses aventures théâtrales avec ce qu'il a fait autour de Frankenstein. Parlera, moi j'aurais pas vu la pièce en live, mais ce sera des captations, et puis on parlera aussi de sa cérémonie d'ouverture des JO de Londres, parce que c'est un gros morceau, morceau à part entière, et puis on conclura cette exploration sur une série. Danny Boyle a commencé à la télévision par des choses qui ne sont plus trop visibles. On en parlait un petit peu hors antenne pour préparer Aurélien. C'est des choses qui sont dures à trouver, en fait. Moi, j'avais eu le même problème avec la filmographie de Winterbottom pour trouver un petit peu ses premiers essais. Voilà, à moins d'habiter en Angleterre et de sonder certains bacs à solde ou flea market, c'est dur de se procurer ces débuts-là, quoi.
Ouais, je suis même pas sûr qu'on puisse les trouver dans des bacs à soldes, à vrai dire, même en Angleterre. C'est vrai que contrairement à, par exemple, à Ken Loach, dont le travail à la BBC a été édité en DVD, contrairement à Alan Clark, dont le travail aussi a été édité en Blu-ray, etc. Je pense que le travail de Danny Boyle à la télé, avant son travail au cinéma, est sans doute moins important que le travail de Ken Loach ou Alan Clark, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été édité. Surtout qu'il a fait des séries, il a fait quelques épisodes de séries, il a fait quelques téléfilms. Je crois pas qu'il y ait grand-chose de marquant là-dedans. Peut-être, j'aimerais bien le savoir, parce qu'en fait, j'ai jamais eu l'occasion de les voir, et j'aimerais les voir. Mais en tout cas, c'est très difficile à trouver, et donc voilà, effectivement, il a fait quelque chose, mais c'est effectivement compliqué à voir.
Et donc, on va commencer par ses premiers longs-métrages sortis au cinéma. Et le premier, Shallow Grave. Le titre français, je suis pas très fan. Parce qu'en plus, Shallow Grave, donc, c'est tombe peu profonde. Alors, bon, il aurait fallu le traduire autrement en français, mais disons que ça a son importance dans l'intrigue. Et quand tu comprends l'importance que ça a, bah, c'est assez génial. Donc, c'est Petit Meurtre entre amis. Film, bah, je vais continuer dans l'anecdote personnelle. Du coup, je l'ai vu à la fête du cinéma, à l'époque. Et c'était mon premier date avec une jeune fille avec qui on a fait toute la journée à voir des films, et c'est le seul dont je me rappelle. C'est dire à quel point il m'a marqué, et je me rappelle qu'il y avait une faute de typo au début, je ne sais pas si vous avez relevé, c'était marqué petit meurtre entre amis. Il manquait tout le R. Je l'ai fait remarquer à la demoiselle qui m'a dit oh, tais-toi. Et j'ai vu à quel point c'était relou d'être cinéphile pour les gens.
Tu te rappelles, François, qu'à l'époque, la fête du cinéma, tu payais un film au prix fort.
Tout à fait.
Et après, tu payais, je crois, un franc et tu pouvais enchaîner des films toute la journée. C'est pas comme maintenant, mais à l'époque, c'était la boulimie. Et comme tu dis, des fois, on en voyait plein. Et un seul sortait du lot, ce qui était ton cas là.
Voilà, tout à fait. Et tu avais un petit carnet où tu notais les films que tu voyais dans quelle salle, etc. Et le film m'a vraiment marqué parce que ça a été une rencontre avec le style d'Danny Boyle, vraiment, cette mise en scène très percutante, cette utilisation de la musique. Il y a le My Baby Don't Care For Me, l'utilisation qu'on a faite est absolument formidable et ce n'est qu'un exemple parmi tant. Et puis c'est la rencontre de ce trio d'acteurs incroyables. Christopher Eccleston, c'est pas son meilleur rôle avec le recul, mais bon, on pourra en discuter. Ewan McGregor, révélation absolue. Kerry Fox, cette actrice m'a tétanisé. Il y a un plan dans le film, je pense que vous voyez, où ils font la fête tous les trois, ils vont à un dîner de charité, et Ewan McGregor fait le fier à bras, et il tombe à un moment, et Kerry Fox lui met le pied dans la bouche. Ouais. Et cette scène, cette contre-plongée sur Kerry Fox qui le domine vraiment, je pense que ça a été une image de mon adolescence. Voilà, c'est ma sexualité, ça a été cette scène pendant très longtemps. Voilà, petit meurtre entre amis pour vous.
C'est vrai que je, comme toi, je l'ai vu à la fête du cinéma, je m'en souviens très bien à l'époque. En fait, j'avais l'impression de découvrir quelque chose qui n'existait pas. Le cinéma anglais à l'époque, il n'était pas très défini dans... J'avais l'impression que d'un coup, il y avait une nouvelle génération qui arrivait et que ce mec, il prenait le cinéma anglais sur ses épaules. Il disait, bon, bah, ça y est, c'est reparti, les gars. Je suis là. Et quand j'ai appris que le mec avait 39 ans, je me suis dit, en plus, c'est même pas un genou. Et ça, j'ai trouvé intéressant que le premier film d'un type soit à 39 ans et que d'un coup, il arrive. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que le film est si solide, c'est que, en fait, quand Danny Boyle fait ce film, il a déjà une longue expérience au théâtre, il a déjà fait de la télé, je pense qu'il sait exactement ce qu'il veut faire, et je trouve que ça se ressent dans le film, c'est-à-dire que c'est un film qui est à l'os, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en trop, il y a tout tous les éléments s'imbriquent parfaitement, il y a à la fois sa vision du théâtre avec ce décor de l'appartement qui est extrêmement artificiel, parce que tu ne trouveras jamais d'appartement aussi grand en coloc à Londres, parce que ça te coûtera 15 000 balles par mois. Et il y a cette espèce de grande scène où les personnages évoluent, et en même temps quelque chose d'extrêmement cinématographique avec ce début, je me souviens, cette caméra subjective sur une musique techno. En fait, c'est une sorte d'agression des sens perpétuelle, et en même temps, c'est drôle, et en même temps, c'est pas drôle du tout, parce que c'est extrêmement amoral et c'est extrêmement sombre. Et en fait, ce film-là, tu peux le revoir constamment et y voir des nouvelles choses. Il y a une richesse dans ce film qui est assez folle, et je trouve que le plus fort pour moi, c'est que à chaque fois que je revois Petit Meurtre entre amis, je me dis qu'il y a tout Danny Boyle, et tout ce qui va suivre est déjà là. Et ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est presque une note d'intention de sa carrière. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment, il y a la peur du groupe, comment l'individu réagit face au groupe, il y a le needle drop, cette manière d'utiliser la musique qui est absolument parfaite. Il y a cette mise en scène qui use de plans extrêmement... m'as-tu vu par moment, tu parles de cette contre-plongée. La contre-plongée, c'est vraiment une figure visuelle clé chez Danny Boyle. Ouais. Là, il a un langage visuel qui est vraiment rentre-dedans, mais qui a toujours du sens. Et ça, je trouve ça incroyable, quoi. C'est un film qui... c'est vraiment une note d'intention de son cinéma, quoi. Si vous voulez comprendre Danny Boyle, vous pouvez regarder son premier film, et déjà, tout est là, et ça, c'est assez dingue.
Cyril.
Du coup, un truc pour résumer entièrement le film, ce plan au début, donc de caméra qui fonce dans Londres, sous la musique d'un groupe qui s'appelle Left Field. Ouais. Et en fait, ça résume tout Danny Boyle. Voilà, une mise en scène de la musique. Danny Boyle m'a fait découvrir énormément de morceaux. Je pense qu'on a des goûts musicaux très, très proches. Parce que chaque fois qu'il met des morceaux, je découvre des trucs et j'adore. Et ça devient des groupes que j'adore après par la suite. Et donc, Left Field, moi, j'ai découvert grâce à Danny Boyle. Et ce plan de fou qui s'arrête à un moment donné dans la forêt, on saura plus tard pourquoi cette forêt a un sens, mais quand ça arrive dans la forêt, la musique devient planante, puis reprend, et on arrive dans cet appartement, et cette histoire après, qu'on va peut-être pas spoiler, j'imagine, je sais pas trop si on spoil à Discordia ou pas trop, mais en tout cas, cette histoire qui démarre, comme une comédie, donc c'est des... on n'a pas expliqué l'histoire d'ailleurs, c'est des colocs qui cherchent un nouveau coloc pour leur appartement, qui font passer un casting, ils sont assez odieux et assez méchants avec la plupart des gens qui passent le casting, et ils vont choisir un gars qui correspond à leurs attentes. Et voilà, il va se passer des choses autour de ce gars un peu mystérieux. Et voilà. Et ce que j'avais oublié en revoyant le film, c'est qu'il y a toute une intrigue policière qui vient se greffer, que j'avais complètement oublié, et qui vient rajouter de la tension et un peu de genre dans ce film qui, à la base, pourrait être une comédie simple. Voilà. C'est ça que j'aime chez Boyle, c'est le mélange des genres, l'utilisation de la musique brit électro, comme on dit, et cette mise en scène flamboyante et virevoltante. Voilà.
Tu as deux hommes de main, effectivement, qui recherchent leur comparse, qui leur a piqué un gros sac d'argent, et j'avais complètement oublié qu'un des deux, c'était Peter Mullan.
Oui, tout à fait.
Et ça m'a fait un petit choc. Peter Mullan, excellent acteur anglais qui est passé partout, hein, qui est passé chez Winterbottom, qui est passé chez Ken Loach, évidemment, qui a réalisé des films, Magdalene oui. Sisters, film traumatisant s'il en est, voilà, et qui est un acteur.
Qui a Mother aussi, c'était très bien. Hein.
Oui. Bah, oula, mon Dieu. Ah, ça y est. Les PTSD du cinéma pour un anglais ouais. qui reviennent. Et ouais, j'avais oublié que c'était lui. Mais ouais, il y a toute une galaxie de façon d'acteurs récurrents qui reviennent chez Danny Boyle. Peter Mullan reviendra par la suite. Et moi, ce qui m'avait tétanisé à l'époque, c'est effectivement, tu dis qu'ils sont odieux et tu as raison. Parce que
oui. voilà, mais moi, j'ai des choses.
Je voyais ça, je voyais en fait l'alchimie qu'il y avait entre eux et les scènes sont drôles. Je me disais, ah putain, j'ai envie d'être leur pote. Et c'est exactement ce que cherche Danny Boyle en fait. Il cherche à t'embringuer là-dedans pour dire, mais non, mais regarde. Regarde ce qui se passe. Et je ne me rappelais plus d'à quel point la fin est sanguine à ce niveau-là, parce que jusqu'au bout, tu te dis, ils vont avoir un sursaut d'humanité. Non, ils continuent en fait à creuser pour faire un mauvais jeu de mots par rapport à l'intrigue, mais il y a un plan, alors pareil, je ne sais pas, c'est compliqué de ne pas spoiler, mais il y a un plan où, en gros, on a la réaction du personnage de Kai Fox, on se dit, dans sa voiture, avec cette super musique, et pour pas trop spoiler encore, on se dit, ah, elle a des remords, on voit qu'elle est en train d'exploser en larmes, etc. Et en fait, la caméra tourne et te montre pourquoi elle est dans cet état-là. Et ça n'a rien à voir avec les liens d'amitié qu'elle a avec ses camarades. Au contraire. Et ça enchaîne sur le sourire.
Elle est belle, cette fin, avec ouais. ce qui se passe, le sourire ouais. de Wayne Gregor, et ce plan, tu parlais tout à l'heure de mise en scène,
ouais.
il est beau, ce plan, en fait. Je n'explique pas ce qui se passe, mais voilà, ceux qui voient le film, c'est un plan qui marque l'histoire du cinéma, quoi. Cette caméra, comment elle se déplace et tout, et ce que ça montre, c'est génial. Quoi.
Mmh. Ouais. Et c'est vrai que les personnages, c'est le point fort de ce film, parce que, comme tu dis, ils sont odieux. Et effectivement, ils retrouvent. En fait, ils sacrifient complètement leur humanité. Et je trouve ça. En fait, chez Danny Boyle, c'est toujours ça. C'est-à-dire que c'est comment, en fait, le groupe mène l'individu à la folie, et combien, en fait, on peut pas être normal et sain dans le groupe. Et ça, il y a une vraie peur chez lui du groupe humain, et c'est une notion avec laquelle il bataille dans toute sa filmographie. Et moi, je trouve ça super fort de commencer sa carrière avec des personnages aussi odieux au départ, qu'on adore parce qu'ils sont un peu vanneurs, tout ça. Et on se dit, mais en fait, mais c'est pas possible, ils sont vraiment horribles, c'est des vrais monstres. Et plus le film avance, et plus on se rend compte qu'effectivement, il y a aucun espoir pour eux, quoi. Et ça, c'est cette noirceur-là, elle est vraiment, vraiment déstabilisante.
J'aurais juste un reproche à faire rétrospectivement avec le regard de connard de 43 ans qui regarde ses Madeleines de Proust en disant « Ah, un peu facile, monsieur !» Non, c'est la plongée de Christopher Eccleston dans La Noirceur, mm-hmm. qui est peut-être un petit peu too much. Mais en même temps, cinématographiquement, c'est super.
Oui, parce que en fait, c'est quelque chose qui revient d'ailleurs dans son cinéma plus tard, on en parlera, mais il y a la même figure dans 28 jours plus tard, ouais. il y a la même figure dans Sunshine. En fait, cette folie-là, elle est effectivement outrancière, mais je crois qu'elle raconte beaucoup des peurs de Danny Boyle. Il y a un truc vraiment viscéral chez lui là, qui est raconté là-dedans. Effectivement, c'est très outrancier. Et moi, j'aime bien aussi quand ça me dérange jamais dans les films quand il y a quelque chose qui déborde des lignes un peu. Ouais. Et je trouve que s'il y en a un qui sait très bien faire ça, c'est Danny Boyle. Il sait très bien déborder des lignes, et moi je trouve qu'il le fait toujours avec sens, en tout cas.
Effectivement, c'est pas un formaliste. Il y a des fois des erreurs et des choses un peu moins bien faites dans ses films. En tout cas, moi, en tant que fan, je gomme ça de mon avis critique. Mais c'est vrai que c'est jamais. Il y a certains films qui sont parfaits, on en parlera plus tard. Mais il y a pas mal de ces films où il y a toujours un truc où tu te dis, bon, ça c'est un peu léger, mais c'est pas grave. L'énergie du tout l'emporte, et je fais abstraction de. Effectivement, la descente aux enfers, elle est quand même super facile et bourrine dans le film, quoi, de Clayton. elle est pas super finaute, quoi.
Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est passé. Il cherche pas la finesse, je crois, effectivement.
Mais c'est efficace. Tu vois, quand les deux hommes de main vont dans le grenier et qu'il les fait tous les deux tomber à la suite, putain, je me rappelais plus que c'était efficace à ce point. Je me rappelais des trous qu'ils creusaient dans le grenier pour voir et observer un petit peu ses colocs. Mais
ouais. Génial, les plans des forêts qui font pas de la forêt, mais des forêts qui font les trous justement dans le plancher. Quoi. D'ailleurs, je sais pas si le film a eu une carrière en festival à l'époque, s'il a été.
C'est une bonne question.
Il me semble que Transporting, il y avait Cannes, mais est-ce qu'il a été montré, je ne sais pas.
C'est une bonne question.
C'est la déformation professionnelle qui revient.
Non, mais c'est surtout par rapport, parce que là, on pourrait dire que c'est Film 4 qui produit, donc c'est la télé publique anglaise. Mm-hmm. Et ça, c'est beaucoup de films anglais qui ont cette chance-là. Nous, en France, quand c'est France Télévisions, c'est pas toujours du même acabit, voilà. Mais en tout cas, voilà. Enfin, Arte, c'est différent. Mais voilà, en tout cas, il y a Film 4. Et donc, c'est vraiment des gens qui vont. Enfin, il va être suivi par. Quand même pas mal par le gouvernement anglais, Boyle, et on verra ça dans sa carrière, il est quand même souvent soutenu sur pas mal de projets. Et les super musiques de Simon Boswell dans Shallow Grave, qui est un compositeur qu'on avait entendu par le passé, par exemple chez Richard Stanley, par exemple, qui a fait aussi des musiques pour, comment ça s'appelle, Bloody Bird, la merde, Feu à vie, par exemple, et tout. C'est un compositeur anglais que j'aime beaucoup, qui fait de la musique électro, voilà, qui est assez sympa. Donc il y a une BO voilà, superbe de Simon Boswell sur ce film.
Après vérification, Petit Meurtre entre Amis a fait des festivals, et notamment en France, où il a fait l'ancien festival du film policier de Cognac, où il avait eu le grand prix et le prix du public. Il a fait apparemment aussi Saint-Sébastien et Dinard. Aussi.
D'accord. Et Cognac, à l'époque, ils avaient quand même le nez creux. Il y avait quand même des bons prix chaque année. Il fallait quand même pas mal de choses en mon coup.
Est-ce qu'on passe au premier gros morceau?
Oui, parce qu'il y avait une grande du temps, celui-là.
Non, bah, on arrive à Trainspotting. Pareil, énorme claque à l'époque, au point où je redoutais de le voir, d'autant, je fais un spoiler sur le troisième épisode, j'ai été très circonspect devant Trainspotting 2, mais j'attends de le revoir, je l'ai pas encore... Ah, voilà.
Tu vas le revoir, tu changeras d'avis, François.
Trainspotting 2, chef d'œuvre.
Non, mais il va le revoir, il va changer d'avis. Il va changer d'avis.
Justement, je suis très très curieux de le revoir après avoir fait toute la filmo.
Avec quel âge à l'époque de Trainspotting 2, François, quand tu l'as vu? Non, mais t'avais quel âge, François, quand tu as vu Trainspotting 2, t'avais quel âge?
Alors, attends, je regarde la sortie. Bah, j'avais
pas encore 40 ans.
J'avais 37 ans.
Voilà. Pour moi, c'est un film du passage à la quarantaine. On en parlera quand le film sortira, mais c'est un film très important pour ça. Et je pense que maintenant, tu le verras avec un œil différent, je pense.
D'accord. Très bien. Tant que j'ai pas besoin de prendre de l'héroïne, ça me va. Pour revenir à Trainspotting, du coup, moi ça a été une révélation. Ce film à l'époque, ça a été complètement fou. C'était sidérant. C'était sidérant de voir ça au cinéma. C'était sidérant de voir toute cette esthétique qui s'était développée, en fait, tous ces côtés formalistes, ces côtés gimmicks, ces côtés post-Tarantino qui ont été relous, qui ont été épuisants à force et qui, là, en fait, abandonné le clinquant pour vraiment ne rien cacher de la crasse. Moi, c'est ça qui m'a vraiment stupéfié à la revoyure. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu. Et j'étais assez fasciné de voir que le film tenait encore là-dessus, même s'il y a quelques petits tics qui peuvent me faire renacler, mais vraiment rien de grave. Tu vois, une transition où je me fais ah, c'est pas grave, mais ça, c'est parce que ça a été refait plein de fois derrière. En fait, c'est pas de sa faute, quoi. Mais non, le film est d'une efficacité folle. Sur le fond, c'est encore plus taré par rapport à ce que tu disais, en fait, sur la dynamique de groupe, sur le fait que c'est à peu près finalement la même histoire, pourrait-on dire, que Petit Meurtre entre amis, avec quelqu'un, avec Ewan McGregor qui trahit ses potes et qui part avec la thune. Je spoil, mais pas vraiment.
Et tout le monde l'a vu, Trainspotting. Hein.
C'est sidérant. Ce film reste sidérant sur le mécanisme de l'addiction, sur l'utilisation de la bande originale, sur cette façon de capter l'Angleterre dans toute sa complexité, ce rapport très conflictuel et compliqué, pour le moins, de l'Écosse à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre. Le regard de classe entre les classes, ce culte de la réussite, tous les personnages sont fous, sont extrêmement bien écrits. Et pour la petite anecdote, c'est grâce à Trainspotting, je pense que j'arrive à parler anglais.
Parce que
j'ai voulu lire le livre en version originale et je le déconseille parce que je ne sais pas vous avez essayé de lire Trainspotting de Irwin Welsh. Mais en gros, pour résumer, c'est écrit en phonétique mais avec l'accent écossais. C'est-à-dire que pour vous résumer, I was, c'est A-H, plus loin, W-U-Z. voilà. Et c'est que comme ça. Et en fait, ça m'a appris à parler anglais parce que c'était vraiment décrypter un espèce de manuscrit de lire Trainspotting. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'y suis arrivé et je pense que ça m'a vraiment aidé à déchiffrer cette langue. Et Trainspotting, le film, ouais, à la revoyure, comme je le disais, j'étais choqué de voir que c'était toujours aussi efficace. Cyril, toi, tu l'as pas vu au cinéma à l'époque, mais comment ta découverte, du coup?
Ben, en VHS, je voyais très bien ce que c'était le film. Je sais pas pourquoi j'ai pas été le voir à l'époque. J'avais l'âge pourtant de le voir. Je comprends pas pourquoi j'ai zappé ça. Mais en tout cas, découverte en VHS. Et le claque. D'ailleurs, ça me fait penser que souvent, on découvre des chefs-d'œuvre en VHS, ou en tout cas sur sa télévision. Et comme si je sacralise l'écran, le grand écran, on peut quand même avoir des chefs-d'œuvre et voir des films qui vont devenir cultes. Il y a un petit écran, ça n'empêche pas. Même si j'ai pu l'occasion de le revoir plus tard en salle, Trainspotting, et ça claque quand même de le revoir en salle. C'est un film qui prend ça de mesure sur un grand écran. Et donc, ouais, donc effectivement, bah, grosse claque, je vais pas reparler de la musique, même si je pourrais parler pendant des heures de tout ce qu'il y a dans cette BO. Ma découverte d'Underworld, par exemple, et ce morceau Bound Sleepy qui est vraiment un hymne de génération. Et malgré ce que je dis un truc bizarre, mais malgré ce qui se passe dans le film, malgré tout ce qu'on. La noirceur de certains moments, je trouve que c'est un des plus beaux films sur la jeunesse, sur ce que c'est d'être jeune, ouais. de vivre cette insouciance. Et c'est con, mais ok, le film est très noir, mais voilà, les relations. Alors, c'est très orienté mec, il y a très peu de rôle féminin dans le film, donc c'est vraiment peut-être parce que je suis un gars que ça me parle plus. Mais il y a vraiment cette relation de ce que c'est d'avoir des potes, de vivre des aventures. Il y a un truc vraiment très fort dans ce film-là. Il y a des séquences dingues, la séquence du bébé, par exemple, ou les chiottes, enfin, des trucs de reste en tête après le film. Ça n'arrête jamais, c'est super efficace. Et voilà, et juste Robert Carlyle. Bigby, juste les plus beaux personnages de l'histoire du cinéma.
Ils sont tous bien.
Mais Bigby, je sais pas comment expliquer. C'est une sorte de Cartman d'avant l'heure. Je sais pas comment expliquer. C'est voilà. Pareil, on n'a pas vraiment expliqué l'histoire. C'est tu suis une déshérence d'une bande de jeunes. Ils sont quoi, j'allais dire Edimbourg, mais non,
c'est Edimbourg,
voilà. Et ils ont pas de thunes, ils glandent et puis ils découvrent l'héroïne, et enfin tous ces trucs là quoi. Et on suit tout ça. Il va se passer un truc qui fait que, comme tu disais tout à l'heure, il y a une trahison qui va se passer. Voilà, comme toujours, il y a un élément de base qui est assez simple, la vie de tous les jours, puis il y a un élément perturbateur assez fort. Et voilà, des personnages qu'on suit tous bien différents et leurs propres caractéristiques. Et cette mise en scène, moi. Léon Grégoire qui court au début avec la musique de
Iggy Pop,
ouais. Voilà, c'est dément ce truc là quand il se fait avancer par la bagnole et qui rit face à la caméra
c'est un film qui est blindé d'images qui sont restées dans l'inconscient collectif. Et effectivement, cette scène au début où Renton se fait à moitié renverser et qu'il a ce sourire démoniaque Et en même temps, angélique sur le visage, c'est une image qui a extrêmement marqué. Et des images qui ont marqué dans ce film, il y en a vraiment des tombereaux. Et Cyril parlait de la jeunesse, et c'est vrai que, le film qui parlait de la jeunesse, et ça, c'était vraiment très intentionnel chez Boyle. En fait, il voulait vraiment faire un film qui ait cette énergie de la jeunesse. Et il raconte un truc assez drôle. En fait, quand ils sont allés en repérage à Édimbourg, ils ont rencontré des drogués, et il était un peu déçu parce qu'ils n'avaient pas l'énergie des personnages d'Irvine Welsh. Mais il s'est dit, c'est pas grave, en fait, c'est pas ça que je veux raconter, c'est pas la drogue que je veux raconter, je veux raconter, en fait, l'énergie de la jeunesse, l'énergie du bouquin, et ce qui pourrait éventuellement être attirant dans la drogue. Donc, c'est pas un film socio-réaliste, Danny Boyle, même s'il aime, lui, le cinéma socio-réaliste, n'a jamais fait un cinéma socio-réaliste, et Trainspotting, c'est vraiment un film qui, au contraire, est dans une ultra-mise en scène, qui va constamment dans l'excès, et qui, en fait, met en scène parfaitement ce qu'il y a dans la tête des personnages. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. Tu mentionnais le bébé. Moi, c'est la scène c'est cette scène effectivement de longue désintox dans sa chambre qui est vraiment hallucinante parce que elle est extrêmement doloriste et on nous projette dans la tête de Renton littéralement. Et c'est ça qui est fort dans Trainspotting, c'est qu'en fait t'as pas envie d'être projeté dans leur tête et pourtant chaque scène il y va et il nous raconte quelque chose de effectivement tu disais la richesse du film elle est assez dingue sur la lutte des classes, le rapport entre l'Écosse et l'Angleterre. Le rapport de pouvoir dans les groupes, le fait que Bigby, personne ne peut le stacker, mais bon, c'est un pote, donc on l'accepte, c'est pas grave. On fait avec, c'est bon, il est relou, mais bon, c'est un pote, c'est littéralement ce qu'ils disent dans le film, quoi, alors que Bigby, c'est juste un satyre. Quoi. Enfin, c'est vraiment tout ce qui est raconté dans le film est d'une richesse à la fois humaine, sociale, politique. C'est un film qui n'a pas bougé en 25 ans, même plus de 25 ans. C'est vraiment un film qui raconte beaucoup de choses sur nous. Une fois, j'avais écrit que c'était c'était impossible de vivre en groupe sans devenir dingue. Et je trouve que Trainspotting, c'est exactement ça. C'est un film qui dit tu peux pas vivre en groupe sans devenir dingue. Et je trouve ça vraiment super fort. Et surtout, le film n'a pas bougé, quoi. C'est-à-dire que tu peux le revoir 40 fois encore aujourd'hui, et il y a toujours un truc qui est innovant, il y a toujours un truc qui te martèle, une idée intéressante. Enfin, c'est vraiment un film, voilà, c'est une sorte de monolithe. Franchement, sortir ça au deuxième film avec une assurance pareille, moi je trouve ça prodigieux.
Et quand tu parlais de le groupe qui peut se détruire et tout, il y a des trucs que j'aime bien dans le film, typiquement quand il essaie d'arrêter de se droguer justement, mm-hmm. et t'as Sick Boy qui dit à Renton, moi je peux y arriver plus que toi, enfin il le challenge et tout, enfin il y a ce côté je t'aide pas, quand ils font un match de foot, j'adore, enfin, quand ils vont en mode de nuit, il y a tellement de trucs, des séquences dingues, ce film n'arrête jamais.
Il dit beaucoup sur la toxicité de l'amitié, hein. c'est vrai qu'il y a dans les groupes de potes, il y a cette toxicité là, cette espèce de compétition qui fait que voilà, et ça le film le raconte tellement bien, et je trouve que c'est ce qui fait que le film fonctionne tellement, c'est que en fait on comprend vraiment ce que vit Renton quand il essaie de décrocher, qu'il part à Londres et qu'il envoie ses potes débouler et bouffer un kebab sur son truc, je dis mais merde, en fait j'ai pas envie que tu vois, et ça c'est quasiment universel en fait, peu importe que ce soit des junkies, ce qu'il raconte de la dynamique de groupe et de la dynamique d'amitié, c'est extrêmement réaliste et je pense universel et intemporel.
C'est ça que j'avais trouvé assez paradoxal en découvrant le bouquin, c'est que le bouquin est beaucoup plus raide. Au-delà de ce côté écrit en phonétique et à prendre ou à laisser et démerde-toi avec ça, les personnages sont bizarrement beaucoup moins sympathiques. Mmh. Et Danny Boyle arrive à en faire quelque chose de paradoxalement plus sexy. C'est-à-dire que t'as cette forme. La scène de désintox, c'est quand même un putain de morceau de cinéma, quoi. Mais je me rappelle avoir découvert le film en salle, l'avoir vu deux fois, et me dire bon, je l'ai vu deux fois, je peux pas le faire une troisième, mais putain, tu te fais rouler dessus, quoi. C'est un train fou sur des rails de montagne russe. Et c'est pour ça que je suis curieux découvrir. Tu l'as découvert en VHS, parce que moi je l'ai beaucoup vu en VHS, et j'ai l'impression que t'y perdais en même temps, et en même temps t'avais le côté granuleux de la VHS allait bien avec la décrépitude des décors que là j'ai redécouvert dans une version remasterisée, et ouais, c'est le film tient toujours sur ce côté-là crasseux et en même temps fou visuellement, enfin ouais, c'est un film hyper paradoxal mais qui tient debout, quoi. C'est fou, un film comme ça.
En termes de crasseux, il y a des films comme ça qui te marquent, tu vois les gens qui vont à l'océan maintenant, ils pensent toujours dans de la mer, si tu vois un tunnel tu penses toujours à Irréversible, et dès que quelqu'un voit des chiottes dégueulasses
Ah, oui.
Il a toujours en tête Trainspotting, ça peut pas être autrement, tu vois. C'est, si tu dédicras à quelqu'un des shots pourries, j'ai eu des shots, elles sont à la Trainspotting, c'est vraiment il n'y a pas de doute. C'est dingue d'ailleurs, elle est belle et dingue à la fois, quoi.
Mais pour moi, par exemple, le génie de Trainspotting, il se résume à un plan tout con, c'est t'as la scène justement des chiottes où Renton, on imagine bien qu'il s'imagine nager dans un océan sous des toilettes, hein. C'est un truc complètement fantasmé, mais le plan d'après, quand il sort du bar, il est tout mouillé. Et ça, ce détail-là, je trouve, ça résume tout le génie de Trainspotting. C'est-à-dire que c'est capable de réunir le fantasme junkie, le délire junkie et la réalité en un même plan. Et je trouve ça, enfin, c'est une idée incroyable, quoi. Et ça, dans Trainspotting, des idées comme ça, il y en a à peu près toutes les scènes. C'est absolument prodigieux.
Pour parler musique, parce que je vais beaucoup parler musique avec Danny Boyle, quand même dans le film, tu as quand même donc Iggy Pop, Primal Scream, New mm-hmm. Order, tu as quand même Bowie, Blur, Lou Reed, Pulp, donc on a dit tout à l'heure Underworld, Les Fields, tu as même ICMC avec Sing About Away quand il découvre Londres, et ses séquences, c'est génial. Enfin, mm-hmm. Ça a été un vendeur de BO à l'époque, hein, Danny Boyle, hein, tout comme Tarantino, oui. Ça a été un gars qui a vendu beaucoup de compilations de musique et tout. Mais là, il y a tout l'Angleterre dans une BO, quoi, et l'Angleterre de l'époque, c'est vraiment un marqueur, et c'est marrant, quand j'ai revu, on en parlait tout à l'heure pour Life Less Ordinary, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il n'y a pas Prodigy dans la BO dans les films de Neboy. En fait, si, déjà à l'époque, ils sont tous passés par là. Donc, c'est une sorte de, c'est un mec super important pour ce qu'on représente l'Angleterre. C'est pas étonnant que plus tard, qu'il ait récupéré la gestion des Jeux Olympiques, parce que c'est vraiment un gars qui sait bien résumer ce que d'être anglais dans l'attitude, dans la musique, dans tout ce que ça représente et tout. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, complètement. C'est déjà parce que c'est quelqu'un qui vient de la classe ouvrière, Danny Boyle, et c'est quelqu'un qui connaît la culture de la rue. clairement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment punk dans son esprit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime ça et qui, encore aujourd'hui, découvre des jeunes artistes. Et quand il fait Trainspotting 2, il va chercher des jeunes artistes écossais. Et c'est quelqu'un voilà, qui sait définir la culture anglaise. Je pense que ça se voit dans quasiment tous ces films, même quand on voit Yesterday. Moi, je trouve que Yesterday, c'est aussi ça, on en parlera plus tard, mais c'est aussi ça qui était fort dans le film, c'est la manière dont il arrive à capter cet esprit anglais. Et je crois que, non seulement la musique, mais effectivement, il y a une conjonction entre la musique et les personnages. C'est un peu comme Scorsese, il sait mettre la bonne musique au bon moment, il sait la faire démarrer au bon moment, et c'est la scène de boîte de nuit dans Trainspotting, elle est juste incroyable là-dessus.
Elastica.
Ouais, exactement, Elastica.
Non, mais je me suis rappelé de plein de souvenirs, parce que le film, je l'ai énormément vu. J'ai écouté la BO en boucle pendant des années, je pense.
Les deux BO. Il y a une deuxième BO qui sortait.
La orange. Pas la verte.
La verte, c'est avec les morceaux, voilà. C'est...
Ouais. Mais il y a plein de trucs qui me revenaient. Peter Mullan, qui joue la mère supérieure, le dealer, plus ou moins. Génial. Voilà, qui est incroyable, la scène du taxi. Effectivement, la scène de boîte de nuit. Il y a des trucs qui me revenaient, en fait. Quand Tommy et Spud parlent de leur nana et que leur nana parle de Tommy et Spud dans les toilettes. Et Spud fait de quoi vous parlez ? Football. Et vous ? Shopping. Plein de trucs comme ça. Enfin, c'est film dingue. On est un peu trop d'accord, je trouve.
Oui. En même temps, Trainspotting, ça c'est quand
oui,
même.
Oui, ça fait référence. En fait, je pense qu'il y a pas de gens qui peuvent dire oh, non.
Après, oh.
Oui, on peut trouver des râleurs, mais globalement, c'est dur de râler devant un tel ouvrage, tu vois. Genre, c'est quand même.
J'avoue. Je m'attendais en me disant ah, ça a dû prendre un coup de vieux et bon sur certains aspects, mais pas pauvre tant que ça en fait. Pas tant que ça, honnêtement. Surtout, c'est l'effet en fait Tarantino Scorsese, c'est que ça a tellement il y a plein de trucs qui ont été tellement repiqués de partout que tu te dis ouais. « Ah, je l'ai vu beaucoup de fois depuis. » C'est moins choc qu'à l'époque. C'est vraiment la seule réserve que je peux avoir sur Trainspotting.
Est-ce que c'est pas le film 90s par excellence ? Est-ce qu'il n'y a pas un film plus 90s, plus cette époque-là que celui-là quoi ?
Si. Justement.
Non, mais en fait...
On se posait la question avec Lélo la semaine dernière et je pense que le film le plus 90s, c'est Strange Days.
Ah oui.
Mais comme c'est de la SF, ça peut te sortir du tout venant de notre vie de tous les jours, tu vois.
Oui.
Transpotting est plus ancré quand même dans la vie des gens normaux, tu vois. Enfin, Strange Days, c'est quand même une ville un peu fantasmée, tu vois. Il y a un truc.
Moi, je dirais que Trainspotting, il est emblématique des 90s. C'est-à-dire que souvent, je me dis que la photo de Renton mouillée, c'est le shoot. Le plus emblématique des années 90. Il n'y a pas d'image qui représente plus ou qui iconise mieux les années 90 que cette image. Tout le monde connaît cette image, même s'ils n'ont pas vu le film. Et je pense que s'il y a une image 90, c'est c'est le poster de Renton, le caractère poster de Renton, qui est absolument. Je pense que cette iconographie-là, elle a marqué. C'est vraiment un film extrêmement emblématique des 90s. Ouais, complètement.
Et en parlant de poster, même l'affiche, où on revoit tous les personnages qui ont des poses bien spécifiques. D'ailleurs, il y avait même des affiches séparées pour chacun des personnages. Ouais. Voilà, cette pose-là, même si Boyle, c'était pas à l'époque un gros faiseur de films, dans le sens un non connu qui va attirer des gens, il y avait déjà une campagne marketing assez bien pensée autour du film. Ça, on a tendance à un peu l'oublier aussi.
Andrew McDonald, qui était très malin, c'est-à-dire qu'en fait, il a exigé que les acteurs, après la fête de fin de tournage, il a exigé le lendemain que les acteurs fassent une séance photo pour les posters, pour qu'ils soient encore dans leur personnage et dans leur physique des personnages, parce qu'il savait en fait que le film allait se vendre sur la presse et sur son iconographie. Et donc, il voulait avoir des spécial shoots pour faire des couves de presse et pour faire des posters. Et ça, cette intelligence-là de producteur, je peux vous dire que c'est quelque chose, parce que le film s'est extrêmement, effectivement, vendu sur son iconographie. Il a fait la couve d'Empire à l'époque, ce qui n'était pas rien, pour un film anglais indépendant. Et c'est vrai que ça a beaucoup joué, je pense, dans le succès du film, c'est cette iconographie-là, ces posters-là, et c'est extrêmement intelligent de leur part d'avoir fait ça. Ouais.
Et ça a mis du coup Danny Boyle sur la scène mondiale, quoi. Et c'est une belle transition, François.
Pour l'ami de pain sur le nez, ouais. Non, alors.
T'es con.
On arrive à Une vie moins ordinaire en 1997, Life Less Ordinary. Le dernier film avant un bon bout de temps avec Ewan McGregor. Et on est toujours sur ces mêmes thématiques, plus ou moins, sur le groupe, les luttes de classe, etc., même si c'est plus marqué. Et j'avoue, je suis resté sur le souvenir de l'époque, j'ai pas revu depuis la salle, ça avait été une énorme déception à l'époque.
Forcément, après Trainspotting.
Ouais, c'est juste ça. C'est-à-dire que ouais, c'est complètement du procès d'intention et je l'admets tout à fait. C'est bah oui, bah faut monter en grade maintenant, faut continuer à faire, faut faire. T'avais fait Petit Meurtre entre amis au carré, là faut faire Petit Meurtre entre amis au cube et Trainspotting au carré quoi. Et
ouais, mais là c'est un film de studio quoi. C'est son premier film américain. C'est voilà, c'est comme plein de gens d'Européens qui sont partis aux États-Unis faire des films. Hein, tu te fais un peu concassé, compressé, tu perds un peu ton identité quand tu pars là-bas. Ça, on le connaît. Hein. Il y a très peu de réalisateurs européens, en tout cas, ou même asiatiques, et tout, qui ont réussi à faire leur passage proprement. Et je trouve qu'ils ne se sentent pas trop mal avec justement ce film-là. Quoi.
Alors, oui, mieux que dans mon souvenir, en tout cas.
Moi, même si je ne l'aime pas beaucoup, le film.
Ouais. Moi, j'en ai vraiment le souvenir d'un truc vraiment acidulé, mais neuneux, gnangnan. Et pas tant que ça, finalement. J'ai eu très, 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 très peur sur la première scène. Qui se passe au paradis, voilà, ça m'a rappelé les heures les plus sombres de l'âme sœur de Jean-Marie Bigard. Non, pardon.
Moi j'ai pensé à Bruce Puissant quoi.
Oui, voilà, c'est plus gentil. Mais non, j'ai eu très peur en fait que ce soit beaucoup plus filé comme métaphore cette histoire de voilà les âmes sœurs, les anges gardiens, etc., etc. Et finalement c'est moins relou que dans mon souvenir. La BO est sympathique, on voit toujours la patte Danny Boyle, hein. Il n'a pas perdu son âme pour autant, mais ouais, c'est gentil.
C'est un film qu'il voulait vraiment faire, puisqu'il a refusé Alien 4 pour faire Une Vie Moins Ordinaire, quand même, ce qui est quand même pas. On lui proposait quand même un gros machin hollywoodien, il a préféré faire Une Vie Moins Ordinaire. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est un film qu'ils avaient prévu de faire, qui était déjà en projet avant Trainspotting, et pour eux, c'était sûr qu'Une Vie Moins Ordinaire, c'était le succès assuré, et Trainspotting, pas du tout. Ce qui s'est avéré, pour le coup, là, un petit peu l'inverse, mais donc c'est un film qu'il voulait vraiment faire. Et aujourd'hui, il est complètement conscient de ce qu'est le film, et de, pas du ratage, mais des erreurs du film. Il m'avait dit, par exemple, à l'époque de Yesterday, il m'avait dit que après avoir fini Une Vie Moins Ordinaire, il avait reçu le scénario de Coup de Foudre à Notting Hill. Il me semble que c'est Coup de Foudre à Notting Hill. Enfin, je crois, mais il me semble que c'est ça. Il s'était rendu compte que c'était ça une vraie rom-com.
Ouais.
Et que lui venait faire un film qui était tout pété, en gros. Et que ça l'avait désespéré. Donc il est très conscient du côté bancal du film. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'ai quand même pas mal de tendresse pour le film, c'est qu'il est effectivement extrêmement bancal et que souvent il se ramasse la gueule, mais souvent il se relève aussi de belles manières. Je trouve qu'il y a des très belles idées. Moi, par exemple, j'aime bien cette idée de paradis en forme de commissariat, tu vois. Je trouve ça une idée un peu con, mais qui me plaît. Mais surtout, je trouve que le film est extrêmement libre. Et quand tu vois les films de studio qui sont faits aujourd'hui, ouais. Tu dis putain, lui, ok, d'accord, c'est bancal, ok, les trucs qui ont très mal vieilli, les trucs qui sont pas maîtrisés, le ton parfois est un peu all over the place, d'un coup, parfois c'est maîtrisé, parfois ça part un peu dans tous les sens. Mais il y a une liberté dans le film, une liberté de mélange de ton et de genre surtout. C'est à la fois une screwball, à la fois un truc un peu cohénien, et en même temps, c'est purement du Danny Boyle. Et c'est extrêmement anglais, et en même temps, ça reprend les codes du cinéma américain. Enfin, il y a une richesse quand même d'intention dans le film que je trouve pas inintéressante. Et du coup, j'ai quand même pas mal de tendresse pour ce film-là, même si effectivement, tu le revois aujourd'hui, tu sais, ça a extrêmement vieilli. Mais il y a quand même tellement de belles choses. Moi, je trouve qu'il y a une belle alchimie entre McGregor et Cameron Diaz, par exemple. J'adore la scène de karaoké sur Bobby Darin, par exemple. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, c'est pas un film que je trouve entièrement raté, loin de là.
Ouais.
Moi, du coup, je sais que j'avais
pas te convaincre.
François, moi, je l'ai revu. Du coup, je vais plus être de ton côté. Ouais. Moi, je l'avais pas revu depuis l'époque. Et à l'époque, j'avais pas bien aimé. Là, ce que j'ai surtout revu, c'est que c'est assez chiant. En fait, il se passe pas grand chose dans le film. On attend que les trucs se passent au fur et à mesure. Déjà, dès le début. Dans le paradis, pour moi, c'est un trigger warning. Dès que je vois des films comme ça, ça commence à me saouler. Je sais que ça va me faire chier par la suite. Et là, ça nous fait... Donc, faut quand même expliquer l'histoire. Donc, c'est deux archanges qui sont envoyés sur Terre pour que Ewan McGregor et Cameron Diaz tombent amoureux. Et s'ils arrivent à faire ça, ils pourront avoir la rédemption, je sais plus ce qu'ils ont dans le film et tout. Ils pourront s'en sortir, quoi. Donc, on va suivre. Ils vont essayer d'interférer avec les deux personnages pour qu'ils puissent tomber amoureux et donc de forcer un peu cette idylle. Et le film raconte ça, et donc en fait, Ewan McGregor va se trouver à kidnapper Cameron Diaz, qui est la fille d'un mania, d'un grand patron d'entreprise, d'ailleurs, dont laquelle bossait Ewan McGregor, il venait de se faire virer. Et du coup, en fait, il se rend compte que c'est plutôt Cameron Diaz qui a kidnappé Ewan McGregor, parce que c'est elle qui est un peu plus rotor, qui a plus d'énergie, qui limite guide McGregor donc comment il doit gérer la négociation, machin et tout. Et voilà. Et le truc vraiment positif du film, alors même pour le coup, je trouve que c'est une des BO les moins marquantes de Hannibal. Alors, pareil, je vais faire encore mon truc, mais il y a quand même du Beck, il y a quand même REM, il y a quand même Prodigy, donc, que je n'ai pas tout à l'heure, Underworld toujours, Faceless, les Cardigans. Enfin, vraiment, c'est, à chaque fois, c'est un instantané de la Britpop et Brit Electro.
Les Cardigans, c'est tellement années 90 aussi.
Oui. Et pour moi, le film, c'est, il y a un effet spécial qui sauve tout le film. Il s'appelle Cameron Diaz, en fait. Elle est géniale. Enfin, j'adore. Et tout le début, avec la piscine, avec ce plan où elle marche avec cette musique super lancinante et tout, elle cherche son flingue. Je trouve, enfin, voilà. Cette séquence de la piscine, c'est ce qui sauverait peut-être le film, je le trouve à mon goût. Et il y a un truc vraiment ringard, je trouve, à la fin, par contre, c'est quand ils sont tous les deux face à face, une sorte de montage où on les voit incrustés, ils parlent l'un contre l'autre.
Ouais.
Ça m'a vachement gêné, ça. Par contre, j'ai oublié qu'il y avait tout un passage en stop motion, dans le générique de fin, j'avais oublié ce truc-là. Et c'est plutôt rigolo. Je pensais que c'était Iron Man, finalement. C'est pas du tout eux qui ont fait ça, quoi. Mais, ouais, c'est surprenant de voir ça à la fin. Voilà. Donc, un film un peu malade, je suis pas trop fan, avec le recul, j'ai pas trop, contrairement à toi, Aurélien, j'ai pas trouvé, beaucoup de choses à sauver, à part que je disais Cameron Diaz mais voilà, c'est un film bizarre, quoi. Mais pareil, c'est parce que film de studio, parce que je pense que Hollywood l'a un peu écrasé, je pense. D'ailleurs, c'est sa première collaboration avec la Fox. Il va quasiment bosser qu'avec eux après en termes de films américains. Et ça, c'est important de le signaler aussi. C'est des gens qui vont le suivre. Et d'ailleurs, Alien, c'était la Fox aussi. Donc voilà, tout est un peu connecté.
Il y a un truc dans la Fox, il a pas trop apprécié. Je crois que ils lui ont collé un music supervisor sur le film. Donc la BO n'est pas entièrement de lui. Et je sais que c'est un truc plus jamais. Il a dit plus jamais de music supervisor. Le music supervisor de mes films, c'est moi-même. Et plus jamais, je me laisserai imposer quelqu'un. Donc je pense qu'il y a des morceaux sur la BO. Ouais, je pense par exemple la chanson de H, par exemple, je sais pas si c'est du Danny Boyle dans le texte, tu vois, avec le titre Lifeless Ordinary, je sais pas trop. Je crois qu'il a mis un H, mais en gros, je crois qu'il y a eu quelques tensions là-dessus sur le soundtrack du film. Et je crois que c'est la seule et dernière fois où il a accepté qu'on lui impose ça. Donc moi, je trouve, voilà, je comprends là, vos réticences sur le film. Hein, clairement, je peux pas non plus être aveugle par rapport à ça. Mais moi, je trouve que c'est sa richesse d'intention en fait qui me touche. Et puis j'aime bien la manière dont Ewan McGregor joue avec sa nouvelle célébrité. Je trouve qu'il y a un truc presque dork dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est devenu d'un coup une superstar. Et en même temps, il joue cette espèce de loser, pas bien dans sa peau, avec sa chemise à fleurs dégueulasse, sa coupe dégueulasse. Et je trouve qu'il y a un truc vraiment assez jouissif dans sa prestation que je trouve, ouais, j'ai pas mal de tendresse pour ce film-là, ouais.
Ouais, c'est vrai que le personnage est chargé quand même. Je cherchais une traduction de dork. Je sais pas, couillon.
Ouais, un peu. Ouais,
techno, peut-être.
Ouais, un peu pecno. Ouais, il est un peu pecno dans le film, c'est ça.
J'ai l'impression que ça m'avait fait, c'était vraiment du Danny Boyle à la moulinette hollywoodienne. Mais comme tu dis, en fait, c'est ça qui est triste par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît son style. Son style est quand même là. Il reste de sa personnalité. C'est pas Jurassic World 2 où on se dit tous les 20 plans, ah, je reconnais un peu Bayona. Tu vois, c'est. Non, c'est du Danny Boyle, mais. Ah,
parfois il dérape, hein, ça c'est sûr. Voilà. Mais même lui le sait, hein, de toute façon, c'est ça qui est.
Après, c'est pas un crime de haine non plus.
Non, ça va.
C'est trop léger. Voilà, c'est peut-être trop léger.
Perso, je préfère qu'il ait fait ça plutôt que Alien 4. Mais, c'est personnel. Mais c'est personnel.
Peut-être qu'Alien 4 ça aurait été mortel par Danny Boyle. Je sais pas comment il a fait pour la BO, mais ça aurait pu être.
Ça aurait été original, effectivement.
Les aliens qui dansent, mais c'est un peu rigolo.
Un petit peu d'oasis sur Alien, je pense que
ça aurait été marrant.
J'ai des images cheloues maintenant. Nous arrivons au quatrième long métrage. Alors, plus gros morceau quand même, mais pareil. Pas tout à fait pareil, mais dans le sens où c'est un film qui m'a vraiment déconcerté à l'époque. Il y a toujours les choses qui me gênent, elles sont toujours là. La séquence en jeu vidéo, on va y revenir. Ce film, c'est La Plage, donc inspiré d'un roman d'Alex Garland, donc la première collaboration entre Danny Boyle et Alex Garland, faut le dire. Toujours dans un cadre hollywoodien, avec Leonardo DiCaprio dans un rôle qui à la base devait être tenu par Ewan McGregor, et c'est la raison de leur schisme en fait entre Danny Boyle et Ewan McGregor. Et avec en second rôle, trigger warning, Guillaume Canet et Virginie Ledoyen, qui est très bien dans le film. Et film tout à fait d'époque, tout à fait dans le jus des années 90, mais sur la fin des années 90, on arrive vers le tournant des années 2000. Voilà, j'ai revu la scène avec les Olsens, j'ai fait ah. Je me rappelle de l'époque.
Génial cette scène.
Oui, mais c'était très dans le dans l'esthétique de l'époque. C'est ce qui m'avait fait décrocher du film, le côté clip au beau milieu d'une histoire qui se voudrait quand même un petit peu viscérale. Ouais, ce film, par rapport à toutes les thématiques que tu évoquais, en fait, sur le groupe et l'aliénation du groupe Aurélien, qui est passionnant.
Ah bah dans ce film-là, oui,
C'est le sens du, c'est le but du film, hein, carrément. Quoi.
Oui.
Complètement.
Sur les utopies, les personnes qui veulent recréer des civilisations et tout, ça parle vraiment de ça, quoi.
Donc on est, tu fais très bien à chaque fois, Cyril, de rappeler l'histoire, parce que moi je pars du principe que tout le monde connaît très bien les premiers films de Danny Boyle, mais là je vais le faire. Donc c'est un personnage qui est joué par Leonardo DiCaprio, qui est un backpackers, on appelle ça comme ça, quelqu'un qui voyage, qui va dans un pays et qui se laisse guider au vent mauvais, qui a envie de vivre plein de trucs, qui boit du sang de serpent au début parce que c'est cool. Et puis qui rencontre un couple de Français, et il est bien attiré par la jeune fille, un petit peu moins par le garçon, mais il ferait contre mauvaise fortune bon cœur en attendant. Et puis surtout, il a comme voisin de chambre un type complètement allumé, qui est joué par Robert Carlyle, qui a un tout petit rôle, mais qui est magnifique, qui est génial, qui est une tornade, hein, vraiment, et qui lui donne une carte pour une île. Une île non loin, paradisiaque, où il se passe des trucs, et
sur cette Thaïlande.
Voilà, en Thaïlande. Et sur cette promesse, Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet et Virginie Ledoyen partent à l'aventure et arrivent dans un endroit paradisiaque qui est tenu par une milice locale qui fait pousser de la weed et qui vit en bonne intelligence avec une communauté proto-hippie, plus ou moins menée par Tilda Swinton, qui est monumentale dans le film. Je m'en rappelais pas.
Comme tiens,
elle est là. Et putain, elle roule, mais comme elle est flippante. Non, le film est beaucoup plus intéressant dans mon souvenir, je l'admets. Mais il y a toujours des Zumba, tu aimes bien ce terme, ce terme, Cyril. Il y a des Zumba qui me font sortir de l'histoire et je trouve ça dommage.
Bah, t'as cité la scène jeu vidéo, mais c'est quoi l'autre Zumba du coup
C'est la scène des All Saints, c'est...
Elle est bien cette scène, c'est quand ils découvrent la plage et tout, c'est quand même...
Ouais.
C'est bien ça quand même.
Ouais.
Et surtout, pour moi, il y a un truc dans cette scène des All Saints, avec une magnifique nuit américaine filmée par Darius Conji.
Ouais.
c'est que, en fait, pour moi, c'est l'apothéose de la première partie du film. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la plage... C'est un film qui est séparé en deux. C'est que la première partie te fait croire de manière... elle fait croire à ce paradis, à cette île un peu fantasmatique, etc. Avec un film un peu de carton-pâte. La musique de Badalamenti est un peu sirupeuse. La mise en scène de Danny Boyle est très... dans le conte de fées presque, avec cette espèce de romance un petit peu qui quittait son nom entre DiCaprio et le doyen, cette espèce de tension sexuelle qui est là mais sans être vraiment là, on se sourit en buvant des petites bières, tout ça c'est presque du cliché de backpacker et de film d'utopie, et on arrive à cette scène d'apothéose sur une musique des All Saints, et tu te dis mais en fait c'est ridicule. Et d'un coup, le film bascule et tu dis « Ah, ok, c'est ça qu'en fait, la vraie réalité de cette communauté et de ce que le film raconte, c'est en fait, c'est l'horreur absolue. » Et je trouve que cette bascule que crée le film, moi, je trouve ça vraiment d'une puissance dramaturgique assez folle. Je trouve que c'est un film qui a été extrêmement mal compris parce qu'en fait, il utilise le regard du spectateur, est-ce que le spectateur attend, est-ce que le spectateur croit voir. Et pour d'un coup lui dire, en fait, non, c'est pas du tout ce que tu croyais. Et en fait, j'ai pas engagé DiCaprio pour faire une rom-com avec une actrice française. Et d'un coup, le film bascule dans l'horreur totale et dans cette espèce de portrait ultra amer, ultra acide de la nature humaine, de ces pseudo-hippies qui sont en fait des privilégiés comme pas possible et qui se croient supérieurs parce que tu comprends, eux, ils savent ce que c'est la vie et ils savent en profiter, ils savent ce que c'est la spiritualité et ils sont dégueulasses. Je trouve le film d'une puissance...
La scène du requin, par exemple.
La scène du requin, elle est incroyable, toute cette séquence-là.
Elle dit tout sur le film, quoi.
Je trouve que ce film-là, là-dessus, il est d'une dureté. Alors oui, ok, il y a la Zumba de la scène de jeu vidéo, mais encore une fois, pour moi, c'est presque des écarts. C'est même pas des écarts, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est une manière, toujours pour Danny Boyle, de nous projeter dans l'esprit du personnage. Alors, effectivement, peut-être qu'il en fait trop et que ça fonctionne pas, et ça, je veux bien le reconnaître. Mais en fait, ce qu'il montre et ce qu'il raconte dans le film est tellement fort que moi, enfin, ces écarts-là, je les vois même plus, en fait.
Et ce qu'il faut signaler, c'est que c'était donc le premier film de DiCaprio après Titanic. Donc, oui. Titanic, pour ceux qui n'ont pas connu ça à l'époque, c'était un phénomène de société. Hein. Il y avait des émissions de télé qui parlaient Titanic.
Le temps s'est arrêté.
Voilà, vraiment, ouais. Il y avait Céline Dion de partout. Voilà, c'était dingue. Et donc, c'est son premier film après Titanic. Donc, c'était hyper attendu par énormément de gens. Et justement, c'est peut-être ça qui a décontenancé à l'époque, c'est qu'ils n'ont peut-être pas eu ce qu'ils attendaient en venant voir le nouveau film de DiCaprio. Bon, maintenant, ça semble évident que DiCaprio, il fait des choix de carrière pertinents, il va chez les meilleurs et tout. Mais à l'époque, à part ceux qui connaissaient Critters 3, personne ne connaissait, enfin Critters 4 d'ailleurs, personne ne connaissait DiCaprio vraiment, quoi. Il avait fait des petits rôles par-ci par-là, mais ce n'était pas la grosse.
Ou la série Quoi de neuf, docteur.
Maintenant, voilà. Oui, Gilbert Gray, tout ce truc-là. Enfin, voilà, c'était le film que tout le monde attendait, et donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de gens qui ont été décontenancés. Et surtout, moi je trouve que moi j'aime bien la passage de vidéo, mais à l'époque, ce qui m'avait gêné, c'est cette rupture de ton. Et je sais maintenant avec le recul pourquoi il y a eu ce truc-là et d'où ça vient. Alex Garland, que ce soit dans celui-là, dans 28 jours, dans Sunshine, dans plein de films qu'il a fait avec Boyle, en fait, il y a à un moment donné un truc qui va basculer. Et ça passe ou ça casse, quoi. Et souvent, ça cassait pour les gens. Il y avait un truc qui allait pas. On en parle plus tard dans Sunshine, dans 28 jours, mais vous voyez, il y a un moment donné, quand ça bascule, il y en a pour qui ça passe pas. Moi, je sais qu'à l'époque, ça passait pas. Maintenant, j'apprécie ça, mais je sais que ça pouvait être un reproche que je pouvais faire au film à l'époque. Même si j'avais beaucoup aimé et j'étais un des rares, je me souviens de le défendre parce qu'il se faisait défoncer. Moi, la séquence de jeux vidéo, contrairement à toi, François, étant joueur de jeux vidéo, bah, j'étais content de voir pour une fois un truc comme ça sur un écran de cinéma. Ça semble. Évident, les Ready Player One, tous ces machins-là, il y en a des tas de films qui reprennent les esthétiques du jeu vidéo, mais à l'époque, pas tant que ça. Donc, ça ne sert pas à grand-chose dans le film. Il joue à la Game Boy. Deux secondes, on doit faire ça. Et après, plus tard, il s'imagine dans un jeu vidéo. Bon, c'est pas très pertinent. Mais j'étais content de voir ce genre d'esthétique dans le film et tout, quoi. Et putain, cette plage, elle est belle. Comme tu parlais de Darius Conji tout à l'heure, Aurélien, c'est que là, on parle quand même de. Donc, c'est la Fox qui produit. Donc, elle avait produit Titanic dans lequel jouait Gabriel. Darius Conji qui avait joué dans. Enfin, qui avait fait la photo de Alien 4, du coup, qui fait cette photo. Il y a tout un truc qui se retrouve là. Et cette photo, elle est belle, quoi. Cette plage, j'ai rarement vu une plage aussi bien filmée, aussi. T'as envie d'y être, quoi. Je sais que d'ailleurs, la Thaïlande avait un peu fait la gueule après le film parce que ça a montré un côté sur la drogue, sur les drogues qui n'étaient pas très cool pour eux. Ils n'avaient pas trop kiffé, justement, ce que le film montrait du pays à l'époque par rapport au fait que ce soit open bar sur la drogue et tout, quoi. Même si dans le film, quand même, tu te rends compte que les narcotrafiquants, c'est quand même pas détendre. Mais voilà, c'est un film qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus sincère que ce qu'il a laissé comme image.
C'est un film complètement sincère, c'est pas du tout un film cynique, du tout. Moi, ce que je retiens toujours la fin du film, je vais pas la raconter, parce que pour ceux qui n'auront pas vu, mais je trouve, en fait, après avoir fait un film aussi dur et aussi amer sur la nature humaine. En fait, Boyle, il finit ce film sur quelque chose de doux, amer, mais de mélancolique et de nostalgique. Et en fait, il y a tout ce que ce personnage a perdu et tout ce qu'il essaye de retrouver est contenu dans cette scène de fin. Sans la raconter, il y a une histoire de photo qui apparaît. Et je trouve ça tellement beau. En fait, cette scène, elle encapsule tellement bien ce qu'est le sentiment de mélancolie et de nostalgie pour ce qu'on a perdu. Effectivement, c'est un film extrêmement sincère, pas du tout cynique. C'est encore une fois, Danny Boyle, il fait toujours ce qu'il a envie de faire, quitte à se foirer la gueule, mais ce qu'il fait, il le fait honnêtement. Et surtout, il le fait en réfléchissant bien à ce qu'il fait. Pour moi, le film, il est extrêmement pensé, en dépit de parfois de ses écarts. Mais voilà, je trouve que c'est encore aujourd'hui un film que j'apprécie toujours de voir. Quand il passe à la télé, si j'arrive au milieu, j'arrive au bout. C'est peut-être le cliché, mais c'est vraiment ça. C'est un film que j'ai toujours plaisir à revoir. Et j'ai jamais compris pourquoi les gens avaient une telle haine contre ce film. Parce que je trouve que c'est vraiment, au contraire, quelque chose. Un film qui dit des choses vraiment intéressantes et qui le fait de belle manière. La photo est belle, comme tu disais. Le score est intelligent. La bande-son est cool. Les acteurs sont. Moi, je trouve DiCaprio excellent dans le film. Donc, bon, vraiment, c'est.
Même Canet, hein. Même Canet, il est bien. Contrairement à ce que dira François.
Oui, et Tilda Swinton est incroyable aussi. Elle est vraiment d'une froideur. Enfin, c'est quelque chose de. Elle est démoniaque. C'est vraiment une super performance. Donc, ouais, moi, c'est un film que j'aime beaucoup.
Il y a un mot que tu as dit qui je trouve très juste pour le film, c'est le côté mélancolique. Il y a un petit côté fin des vacances, fin de la colo, ouais, spleen. Je trouve que le film est très très mélancolique et il laisse du coup une sorte d'ambiance un peu, tu vois, il te laisse un sentiment un peu agréable, doux, amer quand tu le finis, quoi, de ce qui aurait pu être un truc parfait qui n'a pas eu lieu. Ouais, je trouve,
C'est presque à se demander s'il n'y a pas un truc méta là-dedans, si effectivement, si Danny Boyle, après une vie moins ordinaire, il sent pas déjà les choses un peu lui échapper, tu vois, et qu'il sait qu'il a perdu son pote Ewan McGregor et qu'il y a un sentiment presque effectivement de perte et de déjà un truc qui s'effiloche. Et je trouve ça super beau. Je trouve le film vraiment beau là-dessus.
Et pour revenir sur les BO, donc Ellie Field à nouveau, les All Saints, Moby, on ne l'a pas cité, mais le morceau Porcelaine aussi, qui était un gros hit à l'époque, ouais, qu'on retrouve là-dedans, Underworld toujours, le morceau Spinning Away de Sugar Ray, qui est génial dans le film, quoi, Blur, Yeke Yeke, le remix de Morricante, qui est pareil, dément dans le film et tout, toujours New Order, Orbital, et voilà, c'est vraiment, pareil, toujours ce qui se fait mieux dans la musique anglaise et tout, qui se retrouve là-dedans, des groupes électro un peu obscurs. Orbital, pardon, je ne connaissais pas du tout avant... avant ce film, quoi.
Le morceau d'Underworld sur la plage s'appelle 8 Ball est absolument incroyable. Si vous ne connaissez pas, 8 Ball
d'Underworld, on va beaucoup en parler parce que Rick Smith, le leader d'Underworld, il va jouer un rôle important chez Boy plus tard dans sa filmographie. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent Underworld et c'est un des piliers de la carrière de Danny Boyle, quoi.
Et dans la BO du film, il y a un morceau de Junkie XL. Avant qu'il soit compositeur pour le cinéma, parce qu'avant, Junkie XL, c'était quand même un artiste d'électro. Et c'est un super morceau qui s'appelle Synesthesia, qui n'est pas sur le CD, la soundtrack, mais qui est dans le film. Et je vous conseille, c'est un super morceau. C'était avant que Junkie XL, donc Tom Holkenborg, devienne compositeur pour le cinéma.
Et qui a fait, pour ceux qui ne savent pas, entre autres, mais qui a marqué les gens, la BO de Fugero.
C'est ça.
Il en a fait plein d'autres, mais voilà, c'est celle qui a vraiment remis devant Junkie XL, parce que tout le monde a oublié Blade, mais les vrais fans n'ont pas oublié l'intro de Blade avec son morceau. Ouais. Comme tout le roster.
Alors, j'ai pas de haine contre le film, mais je vous ai
écouté. Bien, t'aimes bien Boyle, t'as vu, t'aimes bien Boyle.
Oui, pour l'instant, ça va. Non, tranquille. On verra après. Non, ça va. Non, je trouve, contrairement à Aurélien, Leonardo DiCaprio trop vert pour le rôle. Il est... Je dis pas qu'il joue mal ou que c'est pas... qu'il n'est pas approprié pour le rôle, mais moi, j'aurais mille fois préféré voir Ewan McGregor. Enfin, oui. Moi, je vois quelqu'un de trop beau, en fait. De trop beau, de trop jeune, de trop radieux. Et c'est comme la descente aux enfers de Christopher Eccleston dans Petit meurtre entre amis. Moi, j'y crois pas à sa folie dans la jungle, en fait.
Peut-être que sa performance est parce qu'il a fait des performances assez incroyables ces dernières années, DiCaprio, mais peut-être que effectivement, il est assez vert, il fait encore très jeune dans le film. Peut-être que ça sert le film, en fait. Moi, je pense que ce côté trop beau, trop jeune, etc., ça, en fait, ça sert cette bascule. Il a ce côté, effectivement, fantasmé, fantasmatique, du conte de fées en roman photo, si tu veux. Et je trouve que, en fait, du coup, la désillusion derrière est encore plus forte. Et je pense qu'en fait, ce qu'il incarne à cette époque-là, ça sert le propos du film. Après, c'est peut-être pas sa prestation la plus juste, ça c'est possible. Mais moi, je trouve que du coup, il a quand même, il porte le film quand même avec une certaine assurance, quoi.
Il a l'âge de Lodoyen et de Canet aussi dans le film.
Oui,
c'est quand même assez vieux au départ. Donc, il aurait été plus vieux, ça aurait été bizarre aussi. Je sais pas.
Non, mais vert en termes de voilà, il lui manquait deux ou trois Scorsese dans les pattes, tu vois quoi.
Oui, oui, ça c'est possible. Oui. Et effectivement, après moi, je voir Ewan McGregor dans ce rôle, je serais preneur. Hein. Toujours. Voir Ewan McGregor dans n'importe quel rôle, je suis preneur. Moi, donc,
Quoi qu'il arrive. Mais sur la haine qu'a suscité le film à l'époque, c'était une cible, en fait. Tu vois, c'était vraiment... le fait qu'une vie moins ordinaire ait déçu à beaucoup de niveaux, voilà, c'était l'ambulance, en fait. Et t'as la scène de jeux vidéo, t'as la bande-son d'époque, t'as tous ces jeunes gens beaux. Et puis, le côté très désagréable de ce que ça raconte, aussi. Mm-hmm. Je me demande dans quelle mesure ça n'a pas énervé les gens.
Ah oui. Ah si, je pense que effectivement, en fait, on leur vend un film avec DiCaprio sur une île déserte paradisiaque, et au final, ils ont un film qui te dit que tout ce qui se passe sur cette île est dégueulasse, et qu'en fait, même quoi qu'il arrive, que dès que t'es en groupe, tu finis par devenir un groupe de privilégiés, et que même les gens qui se disent ouverts au monde, en fait, ne veulent que asseoir leurs privilèges et leur propre confort. C'est sûr que le film, il est pas du tout confortable. Hein. C'est pas du tout un film aimable. Du tout. C'est un film à 50 millions de dollars, fait par un studio avec la plus grande star de l'époque, et c'est pas du tout un film aimable. Donc les gens, je pense qu'effectivement, il y a un rejet assez, assez épidermique de ça, quoi.
Puis il fallait avoir DiCaprio dans son viseur après Titanic. Tu ne peux pas faire un phénomène de société à ce point et ne pas être attendu au tournant aussi, je sais pas.
Oui, parce que il y a quand même, à cette époque-là, on s'en vient pas, mais il y avait quand même des pubs pour des opérateurs téléphoniques où les personnages disaient it's Leonardo speaking, quoi. Donc c'est.
Ah oui, c'est vrai.
Putain, je me rappelle de ça.
Rappelle de cette pub, putain.
Ah, tu viens de mettre un frisson, Aurélien.
Ah oui, putain la vache.
Alors, on a les références, on les a pas.
Non mais t'as raison, c'est vrai, mais, mais les gens ne se rendent pas compte que Titanic c'était dingue à l'époque. Il y avait sur TF1 ou M6, ils faisaient des émissions sur le Titanic, à rendeur d'écoute sur l'histoire du Titanic et tout, mais c'était impensable tellement ce film a marqué les gens. C'était dingue. Même, je pense qu'Avatar, qui est pourtant a plus performé, il a moins marqué qu'à l'époque Titanic a marqué les gens. Quoi. C'est quand même dingue.
Bah, non, on va pas parler de Titanic.
C'est un peu loin de Danny Boyle, mais.
Ouais. Mais voilà, on est des vétérans, on y était, et c'était quelque chose.
Non, mais peut-être que DiCaprio, c'était son premier film après ça, c'est forcément. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il va faire après, tu vois, c'était vraiment hyper attendu. Quoi.
C'est fort qu'il fasse un Danny Boyle qui soit aussi peu aimable. Ouais. DiCaprio, ça a toujours été un mec brillant, ça a toujours été un acteur intelligent. Et quand on voit ses choix de carrière, c'est indéniable que le mec, il a des intentions extrêmement louables. Et le fait qu'après Titanic, il fasse un film de Danny Boyle aussi peu aimable, moi, je trouve ça admirable. Et depuis, il a continué à prouver qu'il fait des choix toujours aussi assurés et toujours aussi intéressants. Ça, c'est indéniable chez cet acteur.
Bon, on enchaîne sur les deux films suivants. Je ne me suis pas renseigné, mais l'impression que ça donne, c'est que Danny Boyle a vu Hollywood, il a fait... Ouais, ok.
Il a un gros.
Très bien. Je vais retourner chez moi et je vais faire ce que je veux pendant un temps.
C'est ça.
Voilà.
Ouais, je pense que c'est ça.
Et donc, il tourne deux téléfilms pour la BBC qui sont scénarisés par le même scénariste, Jim Cartwright. Le premier, chronologiquement, c'est un objet très très curieux qui s'appelle Strumpet. Mmh. Où on retrouve Christopher Eccleston, qui est sorti de ses binocles de Petit Meurtre entre Amis pour être le monstre de charisme qu'il est en réalité, et qu'on a pu voir notamment dans Jude l'Obscur de Michael Winterbottom. Et là, Strumpet. Comment raconter Strumpet ? Christopher Eccleston joue un poète qui s'appelle Strayman, et qui fait je sais pas, une espèce de slam de poésie improvisée dans des clubs, et qui rencontre une musicienne qui s'appelle Strumpet, qui n'arrive pas à performer habillée. C'est une caractéristique, ma foi. Et ensemble, ils vont créer une musique, toujours sur cette spontanéité, en fait, sur ce terrain-là, et accéder, elle, tout du moins, à une forme de gloire, voilà, avec des apparitions de stars de la télévision anglaise. C'est un objet complètement foutraque. Hein. Ça va dans tous les sens. Moi, ça m'a un peu... ça dure 1h15. Il y a cette impression de boucle, parce qu'ils n'arrêtent pas d'improviser, de chercher les phrases et de s'approprier des choses qu'on leur dit. Ils s'approprient notamment un voisin qui leur dit « shut up ». Et ils n'arrêtent pas de répéter « shut up » en permanence. Ça m'a limite vrillé les nerfs, mais j'ai trouvé ça intéressant.
Oui,
j'avais jamais vu, j'ai découvert.
Déjà parce qu'ils sont difficiles à voir.
Ouais.
Ils sont sortis en DVD à l'époque en Angleterre, mais ils sont depuis épuisés. Donc ça, c'est des trucs que tu récupères à 60 balles sur eBay, donc c'est génial. Et donc, difficile à voir, mais... Et puis, c'est des produits de leur époque. Déjà, il faut dire que c'est sa première participation avec deux personnes importantes dans sa carrière. C'est Anthony Dodd-Mantel à la photo et John Murphy à la musique. Et que c'est des films qui sont, si on parle de Strumpet, effectivement, c'est un film qui peut vriller les nerfs parce que c'est quasiment expérimental, pas tant dans le narration qui est assez finalement clair, qui est rentre dedans visuellement parce que c'est de la DV cracra. Parce que c'est filmé dans des taudis anglais, tu sais pas de trop d'où, que c'est à la fois extrêmement cru et en même temps extrêmement sentimental. Notamment, il y a une scène d'invasion du plateau de Top of the Pops avec des chiens. Et pourtant, ça fonctionne. Et tu dis, je sais pas comment il arrive à faire ça et que ça soit pas ridicule et qu'en même temps, ça serve les personnages. Bon, bref. Et c'est un film qui a été fait beaucoup tous les matins, ils se réunissaient et puis ils s'échangeaient des idées. John Murphy compris. John Murphy était sur le plateau à jouer de la guitare, à improviser de la guitare pour que ensuite Eccleston et l'actrice dont j'ai oublié le nom, pardon.
Jenna G,
c'est ça, et qu'ils inventent des vers et qu'ils chantent. Donc John Murphy était dans un coin du plateau à jouer de la guitare en dehors de la caméra, hors champ. Et il y a beaucoup de choses comme ça. C'est un film où je pense que Danny Boyle, effectivement, tu as raison François, je pense qu'après Hollywood, il a dit vous m'avez saoulé et je vais retrouver un truc un peu plus léger où on est entre potes et on s'échange des idées. John Murphy m'avait dit que sur le plateau, Danny Boyle était toujours en train de dire allez, on se lance, on tourne et on verra bien. Ouais. Et je trouve que ça résume bien ce que tu as au final, quoi.
Là, et c'est de la DV, alors tu confirmes. Parce que, ouais. Voilà, ah, on oui, a récupéré, oui. Moi, j'ai enfin, full disclosure, on a récupéré les films de façon plus ou moins clean. Et comme ça dérippe de télé, je me suis demandé, mais ça a l'air effectivement d'être de la DV.
Je peux te confirmer que oui, c'est tout à fait de la DV. Et Danny Boyle a contacté Dodd Mantle parce que justement, il voulait un peu cette liberté-là. Dodd Mantle, il avait tourné Festen,
ouais,
et d'autres films du dogme, hein, mais Festen, c'est le plus emblématique. Et je pense que c'est là que c'est parti, en fait. Et effectivement, Strumpet, et même Vacuuming, je crois Vacuuming est...
Ah bah, oui, Vacuuming, c'est enfin, le choix de grain, en fait.
Ouais. Mais en fait, surtout, ce qu'il a expérimenté sur ça, c'est ce qu'il va donner plus tard, 28 jours plus tard.
Ouais.
C'est qu'en fait, le principe d'avoir plusieurs caméras dans une seule pièce pour pouvoir filmer l'action en même temps dans plusieurs actes, pouvoir filmer dehors sans que les gens soient au courant avec un petit appareil, souvent avoir les personnages qui tiennent la caméra à bout de bras qui se filment, c'est ça qu'il a... Moi, quand j'ai vu les deux films, que pareil, je les ai découverts pour le podcast, je me suis dit, merde, c'est le terrain d'expérimentation. Ils ont testé sur ces deux films-là
complètement,
ce que deviendra 28 jours plus tard, parce qu'ils ont, tu retrouves tous les principes. Et Campbell, à l'époque, parlait 28 jours plus tard, il disait ce côté, voilà, on veut s'affranchir d'une équipe de tournage, des grosses caméras, machin et tout. Et là, c'est vraiment ça. Et souvent, tu vois les personnages, ils tiennent à bout de bras la caméra. Des fois, tu vois dans une même séquence, elle est filmée avec deux caméras qui sont cachées dans la pièce et tout. Enfin, ils ont vraiment testé dans ce film-là tout ce qui donnera plus tard, 28 jours plus tard. Et donc, pour parler du film, je ne sais pas si Aurélien, tu as parlé, mais j'ai été très surpris par l'énergie du film. Il y a un côté, la musique et tout, qui est très, très forte. Et quand je parle du rapport de Danny Boyle à la musique, là, c'est vraiment ça. On suit un groupe. On voit Top of the Pop, qui est quand même un monument de la culture anglaise, quand même, à la fin et tout. Il y a vraiment un truc sur qu'est-ce que c'est qu'un groupe, de se faire déposséder par une maison de disques. Enfin, il y a vraiment un truc assez intéressant là-dessus. C'est vrai que c'est assez bordélique au début, pas très agréable, on va dire.
Jusqu'à la fin. Un peu
mal au début, puis, ouais, mais je me suis habitué. Et en fait, je me suis dit, les musiques, elles sont cool, en fait, et tout. Il y a vraiment un truc qui m'a bien. J'ai regardé ce qu'a fait Jane Adger. En fait, elle est dans un groupe qui s'appelle Uncut, qui je connaissais pas du tout, un groupe de musique anglaise de pop. Apparemment, c'est peut-être connu en Angleterre, mais je ne connaissais pas du tout. J'ai vu, c'est une chanteuse à la base, elle n'est pas du tout actrice. Et ouais, c'est un film assez bizarre à regarder au début, on n'est pas très content de le voir. Au final, on se dit putain, c'est quand même cool, quoi. Non, mais bon, je ne sais pas ce que
vous avez pensé tous les deux. Si, moi je trouve que c'est intéressant. En fait, c'est des ovnis un peu, les deux. Et Strumpet, l'énergie est assez folle et un peu désagréable par moment. Mais en fait, il y a une telle liberté de confection, tu sens qu'ils s'amusent. Alors après, je pense que c'est plus une curiosité pour ceux qui ont envie de creuser un peu le sujet Boyle. Je ne pense pas que ça ait vocation à toucher un très large public, hein, globalement. Mais il y a plein de choses intéressantes. Même la musique de John Murphy, je trouve que ce qu'il fait sur ces deux téléfilms est intéressant. Et sur Strumpet, il est quand même, voilà, il y a quand même un élan pop dans le film qui est quand même là pour le coup assez mainstream. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il chante, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je trouve que les chansons, elles sont assez cool, quoi. C'est un film qui m'intéresse pour ce qu'ils racontent de ce qu'ils vont faire après. Et effectivement, en tant que tel, c'est un peu foutraque, mais c'est pas désagréable pour autant. C'est pas vide pour autant.
J'avais une question un peu extra Danny Boyle-esque, mais en même temps, on est en plein dedans. L'esthétique DV, à l'époque, moi, je me rappelle que il y avait un côté « ça va être ça, le futur ». Là, pour l'instant, c'est un peu bizarre, mais ça va s'améliorer. Il y avait un effet un peu « vallée dérangeante », moi, je me rappelle. Et revoir ça maintenant, je trouve ça juste dégueulasse.
Ah oui,
je suis désolé d'employer un terme technique, mais ouais.
Ça donne l'impression que n'importe qui pouvait faire du cinéma, en fait. C'est ça que ça disait, c'est qu'en fait, n'importe qui, c'est un peu comme quand le 5D est apparu, qu'il y a eu genre Rubber qui a été tourné en 5D ou La Casa Amoeda, les gens se disaient, tiens, nous aussi, on peut faire des films maintenant qui sont équivalents à une production de cinéma. Sauf qu'en fait, tu oublies que la caméra, c'est qu'un accessoire dans tout l'ensemble de le tournage, et que si t'as pas des bons acteurs, des bons décors, un bon scénario, t'as beau avoir les mêmes caméras que des gens qui font des films professionnels, ton film ne sera pas forcément bien pour autant. Mais la DV, à l'époque, ça a ouvert la possibilité de se dire que, tiens, n'importe qui pourrait faire des films. Plein de gens se sont mis dans la brèche, en fait, de faire des films en DV. Alors, Lars von Trier en a fait une contrainte à appliquer à son cinéma, mais il y a plein de gens qui se sont dit, non, c'est juste, on va pouvoir rivaliser avec... Sauf que non, c'était moche, quoi. C'était dégueulasse. Il y avait du grain vidéo, c'était pas ouf, quoi.
On enchaîne sur le film suivant. Oui. Alors, pareil, découverte étrange, Vacuuming Completely Nude in Paradise. Passer l'aspirateur complètement nu au paradis, très littéralement. film, bon, un peu moins foutraque, quoique. Enfin, le foutraque, c'est vraiment dans la forme.
Tu me l'as vendu comment, François?
Alors, je te l'ai vendu comme les portes de la gloire sous coke et en SD. Bon, c'est ça, hein, plus ou moins. Est-ce que j'ai menti, Cyril?
Non, non, c'était ça quand j'ai vu le film. Ouais, il a raison, ça résume bien le film.
Non, et c'est surtout la révélation. C'est un comédien génial que j'adore, que tout le monde adore, parce qu'il est génial. Timothy Spall, il est génial. Je ne l'avais jamais vu comme ça. En VRP, il joue un VRP surexcité, dégueulasse. Vraiment, enfin, c'est dans tous les sens du terme, quoi, qui est horrible et qui est vraiment le moteur du film. Et c'est un film qui va à 100 à l'heure, donc je vous laisse imaginer le moteur, en fait. Et là, ça va vraiment dans tous les sens, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est un film qui va dans tous les sens. Et c'est vrai qu'en fait, il dévore le film, Timothy Spall. Et moi, je trouve ça, enfin, il est tellement odieux, quoi. Enfin, vraiment, il maîtrise complètement ce genre de rôle, Timothy Spall. Tu finis presque par l'aimer parce que, en fait, il a aucune barrière, quoi. C'est vraiment, j'ai le souvenir, parce que moi je l'ai vu il y a quelques années déjà, j'ai le souvenir d'une scène avec où il s'imagine sur une île paradisiaque. Non, il n'y a pas un truc comme ça à un moment où il est sur une plage, ou je sais pas, je me souviens plus. J'avais l'impression qu'il y avait cette scène là.
Je l'ai vu il y a deux jours, j'ai pas souvenir de
ça. C'est possible, mais le film va tellement dans tous les sens que tu me dis qu'il y a une scène avec une part aux éléphants, je te dis oui, peut-être. Tu vois, enfin,
non, mais c'est vrai que le film est vraiment tout claqué. Hein, et ce que j'aime le plus dans le film, en dehors de Timothy Spall, c'est la musique de John Murphy, qui elle aussi part dans tous les sens. C'est-à-dire que tu passes de trucs de l'ambiance à des trucs de thriller, enfin ouais, c'est bien le bordel, mais moi j'aime bien ça parce que c'est peu commun, c'est assez singulier. Alors, bien sûr, c'est foutraque et bancal, mais rien que pour Timothy Spall et ce que fait Murphy à la musique, je suis preneur.
Et on n'a pas raconté l'histoire, donc qui est l'histoire d'un gars un peu un loser, sa copine elle est stripteaseuse, et du coup le début du film c'est que sa copine fait un striptease dans une sorte de pot de départ d'un vendeur de VRP, d'aspirateur, un univers de vendeur d'aspirateur, et en fait et sa copine lui dit ah, t'es un loser, t'as rien, tu bosses pas et tout, et en fait ce soir-là il se fait paguer par un des gars qui lui fait mais viens faire comme nous de la vente et tout, et il se retrouve du coup être l'assistant, le candide, il va suivre du coup Timothy Spall dans ses prospections. Et lui, c'est un vendeur un peu taré qui n'hésite pas à vendre à des gens qui n'ont pas besoin des aspirateurs. Sauf que nous, le personnage qu'on suit, c'est un gentil.
Il veut être DJ.
Il a des remords à vendre des aspirateurs à des gens qui sont dans le besoin et tout. Donc, on suit tout ça. L'autre qui veut devenir le plus grand vendeur de la compagnie, ce qui a un concours à la fin, il est à fond là-dedans et tout. C'est son obsession. Et on suit ça. Et quand tu dis DJ, c'est encore une fois un rapport à la musique. D'ailleurs, la musique qu'il mixe, donc c'est du John Murphy, elle est super, la musique dans le film et tout, quoi. Il y a encore, ça parle de musique, comme toujours chez Danny Boyle, il y a toujours un rapport à la musique à un moment donné ou à un autre. Et donc voilà, on suit ce truc-là complètement fou dans un Londres où un peu crapoteux, mais un peu sale, un peu white trash, où justement on va aller vendre des aspirateurs à des gens qui n'ont pas envie. Et on voit des gens vraiment dans le besoin, des gens qui galèrent et tout, quoi. Et on suit ces vendeurs d'aspirateurs.
Et c'est une aventure un peu.
Et un truc rigolo sur ce film-là, celui d'avant, c'est que c'est quand même des films, donc des téléfilms, produits par la BBC, donc la télé nationale. Quand je vois nous ce qu'on fait en France, je me dis putain.
C'est sûr, tu imagines pas ça sur France 2 à 20h50.
Bah ouais, mais c'est marrant, je me dis, c'est quand même la BBC qui produit ça, et c'est quand même un film un peu trash quand même et tout. Je me dis, putain, les Anglais, voilà, des fois, je les envie hein, quand même pour plein de trucs. Hein. Ils ont vraiment cette liberté de ton. Ils ont sûrement d'autres trucs beaucoup plus comme nous, un peu dans les normes et tout. Ils ont sûrement ça aussi à fond, mais quand je vois quand même qu'ils peuvent produire ça, chapeau quoi.
Bah, la BBC, ça a toujours été quelque chose de très, enfin, qui favorise l'expérimentation, même sur sa chaîne principale en fait. Il y a des choses qui sont plus trash et plus subversives sur BBC 2 ou BBC 4, mais sur la BBC, il y a des trucs quand même pas piquer des verres quoi.
Ouais, bah tu vois, Threads, le film de Jackson, c'est la BBC qui l'a produit, donc tu vois c'est pareil, c'est un téléfilm, tu te dis mais comment c'est possible de faire un truc pareil, voilà quoi.
Non, là c'est là où j'ai vu vraiment le côté plus que pour Strumpet, même s'il y a quelques traces quand même de je teste des angles de caméra, des idées, si ça passe pas, bah c'est pas grave, on le fait quand même et on va le faire à fond pour 28 jours plus tard. Mais non, film étonnant, mais j'étais épuisé hein. Ça fait 1h15. J'avais l'impression du double. En durée, j'étais j'avais envie de dormir après.
Oui, c'est vrai que c'est comme tu disais sur Strumpet, c'est des films qui sont un peu agressifs, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des visionnages de plaisir total, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher par moment. C'est pas aimable, quoi.
Et en même temps, ça aide à apprécier le film suivant, je trouve. Non pas qu'il y ait besoin d'une aide, quoique. Très honnêtement, les zombies, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul.
C'est pas des zombies, c'est des enragés.
C'est des infectés.
Ouais. Non, mais là, ouais, tu vois, les fans de Danny Boyle, ils ont toujours une voilà, réponse à tout. Hein.
Ouais, effectivement. Puis
c'est une métaphore de notre monde.
C'est pas pareil. Très honnêtement, j'ai bossé pour un supplément pour Mad Movies consacré au sujet. Et j'ai vu beaucoup trop de films et de séries zombies en trop peu de temps. Et déjà que je trouvais qu'il y en avait trop ces derniers temps, là, j'ai fait une overdose, en fait. J'en ai ras le cul, j'en ai marre.
Oui, mais là, tu parles quand même d'un film qui a relancé la machine.
Oui.
Et alors
c'était un peu,
qui a réinventé la machine.
Qu'il arrive. Voilà, c'était
plus... Il y a plus grand-chose. Non, non, mais lâchez vos fourches. Et puis, voilà, pareil, je ne l'avais pas vu depuis très, très longtemps, celui-là. Et à la revoyure, bah, c'est pas mal. C'est quand même vachement bien. J'avais le souvenir aussi, et je pense que c'est toujours le cas. Je préfère le film d'après de Juan Carlos Frenadillo, si je me rappelle bien, 28 semaines plus tard.
Ouais, génial aussi. Hein.
Non, mais qui est super, c'est pas pareil.
Il est plus action le second, il est plus action, il est plus. Moins émouvant, on va dire.
Bah oui, et puis plus. Et puis bizarrement, sur les thématiques, très Danny Boyle aussi, le fait que le Robert Carlyle soit.
Ah, il est producteur, non,
sur, oui, je crois.
Sur le 2, donc.
Oui,
d'accord, j'ai blasphémé du coup Aurélien en disant ça.
Non, mais j'aime beaucoup le 2, mais il y a un monde entre les deux pour moi. Mais...
Ouais.
D'ailleurs, tu n'as pas raconté l'histoire, François, l'histoire de.
C'est vrai. Alors, c'est un jeune homme joué par Cillian Murphy qui se réveille à l'hôpital pour découvrir que la Grande-Bretagne a été la proie d'un virus qui s'est répandu à toute allure et qui transforme effectivement les gens en infectés, les yeux injectés de sang, sans aucune autre faculté cognitive, de mouvement, de volonté, que de vouloir dévorer ce qui ressemble à un être vivant de près ou de loin. Voilà. Et on voit, d'ailleurs, je me rappelais plus, en fait, qu'on voit dans l'introduction qu'en fait, ce sont des militants écolos qui ont...
Des éco-terroristes. Ça parle d'éco-terrorisme, bien voilà, avant...
Qui ont libéré des cobayes, et ça, voilà, ça a provoqué cette épidémie-là. J'ai trouvé ça... ça m'a surpris. Ça m'a surpris.
C'est une thématique que tu as dans La Jetée ou dans l'Armée des Deux Singes, c'est le même principe, des gens qui veulent défendre une cause animale et qui du coup vont répondre à un virus. C'est assez commun.
T'as pas ça dans la science-fiction,
c'est pas ça qui crée le. Qui crée la.
Il me semble qu'ils ne savent pas, en fait, justement. Enfin,
c'est que dans l'armée des douze singes, dans ce cas-là.
Oui, t'as ça dans l'armée des douze singes, mais. J'ai trouvé ça curieux. Je vais pas dire que Danny Boyle est un gros droitard qui n'aime pas les hippies et qui n'aime pas les écolos. C'est pas... Ou alors c'est le Fabien Roussel du cinéma.
T'as qu'à voir comment les militaires sont traités dans le film pour voir qu'ils ne sont pas non plus.
C'est peut-être un droitard.
Effectivement, le traitement des militaires ne laisse que peu d'illusions là-dessus. Et puis le groupe pour le coup n'est pas forcément justement il y a une petite évolution de discours par rapport à ça.
Oui, en fait je crois que là, dans le discours sur le groupe et l'individu, il y a une vraie volonté de montrer un individu qui prend le contrôle de sa vie. En fait, le personnage de Cillian Murphy, c'est quelqu'un qui est un peu perdu, qui se réveille à l'hôpital, il voit que le monde s'est effondré, et en fait d'un coup peut-être qu'il se rend compte que c'est pas si mal d'avoir des copains et des copines et des gens avec qui parler, mais en même temps, il y a quand même une pression du groupe. Les militaires incarnent quelque chose d'assez démoniaque, et je pense qu'il y a une prise de conscience du personnage d'affirmer qui il est pour pouvoir vivre ensuite dans le groupe de manière un peu saine. Quand j'ai vu ce film, je me l'étais pris vraiment en pleine tête, parce que je trouvais que c'était une réinvention totale d'un genre qui était éculé, lessivé, rincé comme pas possible.
Ouais.
Et franchement, il y a des images dans ce film qui sont tellement puissantes en termes purs de cinéma, c'est-à-dire que le début du film, le quart d'heure de début, entièrement muet, avec Cillian Murphy qui erre dans un Londres vide, la scène dans le tunnel où on voit les ombres des infectés qui courent projetées sur un mur avec eux, en termes de cinéma, c'est incroyable.
L'église est folle aussi.
Ouais, c'est vraiment blindé d'images marquantes et de pures images de terreur, quoi. Et surtout quand on le revoit, enfin pas surtout, mais en plus quand on le revoit 20 ans après, et surtout quand on le revoit après le Covid, il y a quelque chose d'extrêmement prophétique dans ce film. Les scènes de l'ombre vide,
Moi, pendant le Covid, la première chose que j'ai pensé quand on s'est fait confiner, c'est ça y est, on vit dans 28 jours plus tard. Quoi.
Bah, et c'est dans Paris à ce moment-là, c'était ça. Hein. C'était
vraiment, ouais. Et c'est et je trouve que c'est et quand tu vois le film quand ils font leurs courses par exemple, un geste aussi anodin qu'aller au supermarché, d'un coup ça devient une aventure. Et ben avant pendant le Covid, c'était un peu ça aussi et je trouve que le film, il a pris une dimension supérieure avec le Covid parce que il a montré à quel point il rappelle à quel point tout peut s'effondrer extrêmement rapidement.
On a eu le film n'est pas réaliste du coup parce qu'ils vont pas prendre des pâtés du PQ, donc c'est pas réaliste c'est par rapport au Covid.
C'est vrai, encore que ça c'est une ellipse parce qu'on a pas vu cette partie où le monde s'est effondré effectivement.
Puis ça manque d'antivax qui se balade dans la rue en faisant il se passe rien.
Ça c'est bon les masques, ça sert à rien.
Non, le manque de Francis Lalanne, tu vois.
C'est ça. Mais non, je trouve le film d'une puissance de cinéma complètement folle. Et puis effectivement, avec le Covid, ça, je trouve que ça a encore relevé la puissance du film, la puissance symbolique du film. Moi, je pourrais regarder ça en boucle, hein, quasiment.
Il est assez dingue comme film. On parlait tout à l'heure de John Murphy, on va souvent en parler d'ailleurs plus tard. Ouais. Mais là, vraiment, il s'est révélé à la face du monde. D'ailleurs, la BO ouais. a été utilisée jusqu'à plus de soif dans je ne sais combien de spots télé, de machin, de pubs et tout. Voilà, ça, ouais. c'est, ça a délimité écœurant de l'étendre ça, alors que c'est la musique qui est super et tout. Quoi.
C'était ouais. le nouveau Requiem for a Dream tout d'un coup.
Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Cillian Murphy, bah, moi, je crois que c'est là que j'ai découvert mon amour pour Cillian Murphy, c'est avec ce film, je pense. Et après, c'est un acteur que j'ai pas arrêté de suivre, que j'ai toujours adoré. Mais dans ce film-là, il était vraiment. Assez marquant. Il y a des séquences, donc quand il retrouve, donc il faut s'expliquer, donc il est seul dans Londres, il va retrouver quand même à un moment donné un père et sa fille qui va faire un bout de chemin. Sans spoiler, la séquence de la goutte de sang, moi je chiale à chaque fois, hein. Vraiment ça me
le
prend.
Le père, c'est Brendan Gleeson, il est exceptionnel dans le film.
Ouais. Ouais, mais ils sont tous... Et la séquence de la goutte de sang, si vous voyez le film, vous verrez et tout. Mais c'est une séquence qui me prend au trip et c'est pour ça que le film passe le cap de juste excellent film, vraiment chef-d'œuvre, hein. Ce film. Me bouleverse à chaque fois. J'aime un peu moins la fin avec les militaires, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté Garland où ça part un peu en vrille et je suis un peu moins fan. Toujours une BO super. D'ailleurs, Blue State, Season Song, le morceau de fin qui, avec des chants, des chœurs d'enfants et tout, c'est exceptionnel ce morceau, j'ai pu l'écouter mais tellement de fois après la découverte du film. Moi, j'avais vu le film d'ailleurs officiel de Gérard May où il était projeté à l'époque et c'est vrai que ça nous a bien marqué, quoi. C'était assez fort quand même. Et comme tu disais, Aurélien, c'était pas une période de très cool pour le cinéma de genre à l'époque. Pas ouais. que les zombies, hein. Début 2000, c'était pas non plus. Il n'y avait pas ce renouveau. Il y a eu Scream qui est arrivé quelques temps avant, qui avait commencé à relancer un peu la mode des slashers, mais c'était pas des grandes périodes, les années 90, début 2000. Et c'est vrai que là, ça a relancé quelque chose. Après, bon, il y a eu trop de films de zombies après, 20 jours plus tard, vu que ça a été un carton et que ça a relancé une mode. Mais lui, c'est vraiment le premier, donc on peut pas l'accuser d'être une copie. Il a son propre style, et voilà, il est beau ce film, il est émouvant, il est flippant, vraiment, il fait peur, et il y a une réflexion sur l'âme humaine, toujours qu'on en parlait tout à l'heure de la vraie face des gens qui se révèlent au fur et à mesure et tout, voilà, c'est du Danny Boyle comme on l'aime, comme on l'a toujours aimé, comme on l'aimera toujours.
Quoi. Il fait un film vraiment anglais, c'est-à-dire que c'est un film qui se sert de la géographie anglaise, de la géographie de Londres, la campagne anglaise. C'est tellement facile, enfin, entre guillemets facile, mais c'est tellement facile pour un cinéaste anglais d'aller faire ça aux États-Unis. Et le fait qu'il fasse ça chez lui, je trouve ça admirable parce qu'en fait, il crée des nouvelles images de cinéma. Et moi, je trouve ça toujours intéressant quand un cinéaste décide de créer des nouvelles images, chose qu'on n'a jamais vue. C'est pour ça que le film est aussi marquant, c'est qu'il y a tellement d'images folles et d'images mémorables dans ce film. Enfin, moi, j'ai l'impression de l'avoir vu hier, alors je l'ai pas vu depuis 2 ou 3 ans. Et c'est vrai que c'est un film qui, je trouve, ne bouge pas du tout. Et qui, c'est pour ça qu'il est, pour moi, il y a un monde avec le 2, c'est que le 2, il est très bien, mais il est plus normé déjà. J'ai l'impression que 28 jours plus tard, c'est un film qui est pas du tout normé, t'as l'impression qu'il s'invente au fur et à mesure du récit et qui décide de jamais aller complètement là où tu penses qu'il va aller, quitte à ce que ce soit un peu désagréable. C'est vrai que la partie avec les militaires, c'est vrai que c'est ce pétage de plomb un peu outrancier. Et ça, c'est un truc que tu imagines presque pas. Tu t'imagines effectivement le côté ouais les militaires concupiscents qui veulent mettre la petite en robe parce que tu comprends ils n'ont pas vu une femme depuis 6 mois, ça c'est attendu, mais tout ce qui se passe derrière c'est pas du tout attendu et c'est tout, tu t'attends pas à un déluge de sang, de pluie, de boue à ce point-là, c'est une espèce de cauchemar avec la musique de Murphy qui monte et qui monte et qui monte. Enfin, cette scène elle est prodigieuse, moi je trouve ça dingue.
Ce qu'on a dit avant et qu'on ne répétera pas, on n'a pas forcément répété ici, c'est que le film était entièrement tourné avec des caméras ADV. Mm-hmm. Je me demande si c'est pas un des rares blockbusters, enfin, c'est pas un blockbuster, mais un rare des films de studio qui a utilisé ce mode-là de tournage, de filmage, on va dire, parce que c'est pas commun de voir ça. Et le film, je trouve, je l'ai pas revu là pour l'occasion, mais je l'ai revu il y a quelques années. Ça choque pas trop, parce que comme je disais tout à l'heure, comme il y a des bons acteurs, il y a un bon scénario, une belle musique, tout est réussi. Finalement, on oublie très vite que c'est la DV. Et comme disait Boyle à l'époque, les plans de Londres dévastés où tu vois Murphy qui court sur les ponts et tout, ça n'aurait pas été possible autrement s'il fallait installer un vrai set de cinéma. Ils n'auraient jamais pu en un si court laps de temps de pouvoir faire tous ces plans-là. Et ça a servi justement beaucoup le film. Son énergie d'ailleurs, le fait que constamment la caméra colle au personnage et tout, c'est inhérent à cette prise de vue en caméra DV, quoi.
Oui, et puis la DV, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est effectivement crado, mais quand tu as un chef-op comme Don Mantel, le chef-op fait aussi du travail, c'est-à-dire qu'effectivement, l'approche de la caméra et du filmage, peu importe que ce soit de la DV ou du 16 ou du 35, peu importe, il a un chef-op qui est c'est un des meilleurs chef-op au monde. Et je pense qu'effectivement, après, honnêtement, moi, je pense même plus à la DV quand je vois le film. Ça pourrait être dans n'importe quel format. Ça serait pour moi quasiment le même film. Je ne suis pas sûr que la DV, à part effectivement la souplesse sur le tournage, je ne suis pas sûr que la DV soit aussi importante dans l'ADN de la puissance du film.
Bah, agree to disagree, pour le coup.
Ok.
Wow.
Attention, hiérarchisme.
Non, mais à la revoyure, en fait, j'ai trouvé que la DV, dont je vous l'ai dit, je ne suis vraiment pas fan aujourd'hui, un peu
stériorisé. Mais nous, on n'aime pas ça non plus. Ça
amène quelque chose dans l'énergie des infectés, en fait. Les scènes d'infectés, les scènes d'attaque des infectés, la DV amène vraiment quelque chose qui, en plus... Pour le coup, comme si je vous décrivais les scènes, on a l'impression que c'est une espèce de cache-misère, sauf que là, non, ça donne une espèce d'énergie kinétique qui, moi, à l'époque au cinéma, m'avait mis limite mal à l'aise, en fait. Mais là, ça fonctionne vraiment, quoi. Enfin, quand on a justement des infectés qui montent des étages et qui cherchent, qui ont des mouvements très très saccadés, ça aide vraiment à accentuer ce côté menace. Et moi non plus, je suis pas très fan du passage avec les militaires parce que ça fait très Romero, en fait, bêtement, fatalement. Mais même s'il en fait autre chose, hein. Mais je reconnais que effectivement, tu as dit que c'était un des meilleurs chefs-op au monde. Bah pour le coup, pour ces scènes-là, oui. Tout à fait. Pour faire ça avec la DV, c'est impressionnant.
Il y a un truc, François, je me suis rendu compte là sur le côté application, c'est qu'en fait, s'il y a eu des blockbusters en DV, les full footage, en fait.
Oui,
et le côté justement filmé vrai, c'est peut-être ce qu'il y a dans le film. C'est comme si filmé avec une caméra DV. C'est comme si c'était des gens normaux qui avaient filmé ce qui se passait. Donc ça rend peut-être le film plus réaliste, plus ancré dans le réel qu'une caméra un peu léchée avec des optiques un peu léchées qui crée une distance, un flou de profondeur de champ et tout. Voilà, c'était ça qui fait que ça rend le film peut-être plus réaliste parce que ça pourrait avoir été filmé par des gens qui ont capturé l'instant.
Ce qui est très étrange et l'épilogue. Où il est avec les deux femmes, où ils vont sortir un mot pour être repérés par d'éventuels secours, ça le valide parce que l'image n'a jamais été aussi nette avant dans le film, et t'as l'impression que c'est une espèce de gradation. Et effectivement, t'as ce côté très très heurté au début avec des décadrages très violents sur certains plans, avec des compositions de plans qui sont complètement extraterrestres au début. Enfin, on a vraiment, t'as le personnage de Kim Murphy qui se réveille, et la mise en scène de Boyle amène ça sur des choses qu'il a pu tester sur Strumpet et Vacuum, Completely Nude in Paradise, et ça marche, et c'est pas foutraque, et c'est pas et ça a du sens. C'est pas un film pour lequel je mourrais forcément sur une colline, mais il me grandit dessus, comme disent les Anglais.
Parfait, c'est tout ce qu'on veut entendre.
Voilà la fin de cette première partie. Merci beaucoup, messieurs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Aurélien, tu es un pilier porteur du magazine Cinéma Teaser. Le nouveau magazine est en kiosque.
Oui, tout à fait. Avec Le règne animal en couverture de Thomas Caillet. Excellent film de genre français.
C'est un bon choix. Cyril, on est en pleine préparation du PIF. Est-ce que tu peux dire les dates ?
C'est du 6 au 12 décembre, mais plus proche, c'est la nuit d'Anarland qui aura lieu le 30 septembre. Mais
j'en ai fait mon deuil parce que je ne peux pas y aller, mais effectivement.
C'est vrai, désolé François. Non, t'as dit on peut vous retrouver où ? J'allais répondre chez ta mère, mais je me suis dit que c'était vraiment approprié.
Allez, tu peux.
Tu vas le garder ça, hein, tu le gardes.
Absolument.
Il est tard.
Il est tard. Le prochain épisode, on commencera par Millions. On continuera sur Sunshine. Énorme morceau, Sunshine. On se bagarrera sur Slumdog Millionaire et 127 heures. Je vais le dire en français. Et je ne sais pas quoi en penser pour l'instant parce que je ne les ai pas vus. Et on finira l'épisode sur la partie spectacle vivant de sa carrière avec les deux versions de Frankenstein. Et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. On se retrouve bientôt.
Donc on doit voir les deux versions de Frankenstein, c'est ça ?
Bah, si on peut.
D'accord, ok, je note.
Si on peut, si on peut. Merci à vous, messieurs. Bonne fin de soirée.
Merci, François.
Merci, François.